Est-ce que ça veut dire que ceux qui restent dans le système pilent sur leur intégrité? Est-ce qu'ils servent la justice? Est-ce que c'est possible encore de servir la justice?
C'est-à-dire que le gouvernement n'aura jamais besoin de prouver qu'il y avait eu une pandémie grave. Au contraire, si quelqu'un veut contester ce fait-là qui est devenu de connaissance judiciaire, mais il va se faire dire « mais vous n'avez aucune chance de succès ».
Je comprends. C'est puis quand là, même extrêmement
puis
grave.
Puis là, si je fais encore des prédictions, là, j'ai pensé à ça récemment, ça ne m'étonnerait pas que s'il y avait des gens qui faisaient des demandes en ce sens-là, hein, pour contester l'existence de la menace grave, mm-hmm. ils pourraient même se faire dire qu'ils sont quoi? Qu'ils sont quérulents. Ça, c'est un autre mot savant là, qui vient du domaine de la psychiatrie. Oui, oui.
Okay.
Qui veut dire quelqu'un qui fait des demandes farfelues devant les tribunaux. Donc, si les gens se demandent, oui, mais s'il y avait un complot, on le saurait, c'est comme ça que ça marche, le complot, là.
Tout le monde est un peu comme...
Ben, c'est ça, on menace les gens, on fait des exemples avec eux, on sème la peur. C'est ça, on utilise des techniques de contrôle mental, on utilise des techniques d'hypnose, peut-être.
Louis-Olivier Fontaine se faisait appeler maître il y a encore quelques jours, mais plus maintenant, il a remis sa démission au barreau du Québec, et donc c'est terminé pour lui, ne croit plus qu'il peut servir la justice en faisant son métier d'avocat. C'est gros comme affirmation, ça a créé une onde de choc dans sa lettre qu'il a publiée sur le site Réinfo Québec. Et j'avais vraiment envie de comprendre comment quelqu'un peut en venir à décider de démissionner de son métier en étant profondément convaincu qu'il ne pourrait plus jamais servir la justice. C'est certainement une démarche d'intégrité dans laquelle j'ai beaucoup de respect. On a une magnifique discussion, une longue discussion, on a parlé de plein de choses et j'espère que vous allez apprécier autant que j'ai eu du plaisir à discuter avec Louis-Olivier.
Y a-t-il des sujets...
Y a-t-il des sujets, ouais?
Moi, je sais pas, on parle-tu de l'Holocauste, des chambres à gaz?
Tu veux juste... T'as-tu l'intention d'aller là? Ou est-ce que les virus existent? Ou ce genre de choses? Ben, y a-t-il des sujets sur lesquels tu veux pas aller?
Moi, je comprends qu'il y en a certains dont on parle pas trop, là.
Moi, le thème de ma chaîne, c'est qu'il y a aucun sujet qu'on peut pas aborder si on le fait avec un esprit critique. Fait que, tu sais...
OK.
J'ai assez confiance.
Puis est-ce que ta pensée a changé un peu par rapport au changement climatique?
Par rapport au changement climatique? Je t'ai dit de quoi par rapport? Ah, attends, de quoi tu parles?
La première fois qu'on s'est vu.
Ouais, vas-y.
Je sais pas pourquoi, c'était chez. C'était à Longueuil, chez. La psychologue, là.
Lauriane Blais?
Hein?
La psychologue.
Excuse-moi, j'ai oublié son nom.
On s'est déjà rencontrés, mais c'était pas à la conférence de presse.
Donc la deuxième fois d'abord.
Amira? Ah oui! Soumaya.
Soumaya.
Oui, c'est vrai, t'étais là.
Soumaya,
oui,
je sais pas pourquoi t'étais là. Puis là, on parlait de changement climatique. Là, puis là, tu m'avais dit genre, mais là, tu crois qu'il y a pas de pollution? Puis là, j'ai dit non, c'est deux choses.
Ouais. OK. Mais attends un peu. Selon toi, t'as perçu quoi de ma position? Que je pensais qu'il y avait de la pollution, puis toi, tu penses qu'il n'y a pas de pollution? Ou c'est quoi que t'avais perçu, mettons, de moi?
Ben moi, j'avais rien perçu de...
Non, mais je vais te comprendre qu'est-ce que j'avais projeté.
Rien négatif, mais...
Comme opinion, mettons, c'était quoi que t'avais pensé que j'avais sur les... Parce que selon moi, je pense que c'est comme l'endoctrinement, c'est ça le mot?
L'endoctrinement
pour faire peur aux gens, mais je pense
quand
même... Ouais,
c'est ça, mais à ce moment-là, quand on se reporte à 2021, il y avait encore beaucoup de monde qui croyait qu'on allait mourir empoisonné par du CO2, là.
Ouais, OK, je comprends ce que tu veux dire. Probablement, j'ai continué d'évoluer dans cette position-là, mais je pense que j'étais déjà dans une posture en 2021 où je commençais à faire comme... Ouf, ça aussi, ça sonne comme propagande de peur, puis c'est un outil de manipulation.
OK.
Puis, dans le fond, moi, où mon enjeu est, c'est la pollution. C'est peut-être pour ça que je n'étais pas de pollution. Parce que, mon chum et moi, on fait de la plongée. On a voyagé partout dans le monde.
Ouais.
La pollution est visible. Dans l'océan, le plastique, c'est complètement aberrant.
Ben oui, moi, je pense que c'est ça le vrai problème.
C'est ça, exact. Okay. On a la même opinion. Le CO2, mais d'ailleurs, j'ai reçu Joanne... comment elle s'appelle? Celle qui a écrit un livre, Les enjeux climatiques. Joanne Marcotte.
OK.
Puis, elle, dans le fond, elle explique comment... qu'on est manipulé puis que c'est pas vrai, puis tu sais le fameux ours polaire là, qui est mort noyé, qui finalement il était juste vieux, puis c'est pas vrai qu'il était pas en train de mourir parce que la calotte glaciaire fond ou... tu sais on utilise, fait que ça devient un éveil, je pense que c'est un processus, puis j'ai été chercher plus d'informations, mais ça fait un bout que je commence à faire ouf les voitures électriques, ouf, non les villes 15 minutes, non, Fait que moi, je pense qu'on doit être à la même place. Mais,
fait que Hello, elle veut savoir puis elle a cherché.
Elle cherche, c'est ça, mais c'est un processus. Ouais, puis il y a tellement de sujets. C'est ça, je disais à mon chum cette semaine, dans le fond, on est tellement dans une matrice que peu importe où tu mets le focus, tu vas commencer à voir les pixels, tu vas commencer à voir le mensonge. Puis, tout est un mensonge. On est dans une illusion. Fait que tu sais, il y a des places où j'ai juste pas perdu mon temps encore parce que je pense que maintenant, c'est comme c'est sans fin. Tu peux aussi juste accepter que tout est une illusion puis continuer d'essayer de naviguer dans ce monde-là. Là. Mais plus ça va, plus c'est clair pour moi qu'il n'y a pas grand-chose de vrai.
Oui, puis il y avait une amie à Caroline qui était là.
C'était, on roule en passant, on peut commencer, ouais, c'est ça, on roule.
OK.
Une amie à Caroline.
Une amie à Caroline, c'est ça qui avait fait une réaction aussi quand j'avais parlé de changement climatique. Elle avait une réaction, puis j'avais dit « Ah, t'as pas reçu le mémo! »
OK, c'est ça, elle était pas rendue encore. Rappelle vraiment, c'est drôle, j'avais complètement oublié de cette soirée-là, mais oui, c'était tellement plein de discussions sur plein de sujets. Puis tu sais, oui, on est encore tôt dans l'éveil. On dirait qu'il y a bien des voiles qui sont tombées depuis, mais mine de rien, en 4 ans, ça a été beaucoup de bouchées à avaler. Vraiment. Même pour des gens qui avaient déjà peut-être commencé une quête de vérité, si on peut l'appeler comme ça. Puis justement, parlons de ta quête à toi, parce que, tout le monde parle de toi, tout le monde parle du fait qu'il y a un avocat qui a remis sa démission du barreau. C'est un gros... Ça fait une onde de choc, mais c'est tellement évident pour moi que c'est quelque chose qui est réfléchi. Tu peux pas te lever un matin et dire « Tiens donc, moi, je vais juste démissionner du barreau. » Puis la première question que j'ai vraiment envie de te poser, c'est « Quand as-tu commencé à mûrir cette réflexion-là par rapport à la justice?
» Écoute, c'est un très long processus, donc non, j'ai pas pris cette décision-là sur un coup de tête. Là, je sais pas jusqu'à où je devrais retourner en arrière, là, mais écoute, même pendant mes études en droit, on avait un prof là, qui était très critique, je crois que... Oui, puis lui, il le disait avec fierté, il dit « Moi, je suis pas avocat, je suis docteur en droit. » il nous donnait le cours d'introduction au droit. Puis il nous avait fait lire un texte très critique en théorie du droit. Là. C'était un texte d'un certain Duncan Kennedy, qui est professeur émérite à l'Université Harvard, sûrement retraité maintenant. Là. Et donc, il nous avait fait lire ça, et ce professeur-là nous disait que finalement, le droit, c'est de l'idéologie, c'est de la politique. Tout ce qu'on nous présente comme étant des règles, des lois très rationnelles, un raisonnement juridique qui est très rationnel. Il dit non, oui, pour certaines choses, peut-être moins compliquées, ça va bien, on peut trancher facilement, mais dès qu'on tombe dans des sujets politiques, des sujets plus clivants, plus qui se rapprochent du pouvoir, eh bien là, on est purement dans l'idéologie, on est purement dans la politique.
Wow, donc ça, c'était bon.
Oui, on enseignait ça à l'époque à l'UQAM.
En plus, je tombe en bas de ma chaise, je vais maintenant.
Donc je ne sais pas si ce professeur-là est toujours là, si on enseigne toujours ça, ou si c'est pas... Il a été cancellé, je ne sais pas quoi. Et ce professeur-là, émérite de Harvard, avait reçu un doctorat honorifique de l'UQAM.
Ah oui?
Il a déjà été invité à prononcer une conférence à l'UQAM. Je n'y avais pas assisté. Reçu un doctorat honorifique. Donc, on enseignait à l'UQAM que le droit, c'est de l'idéologie.
Ça t'avait déjà percuté. Parce qu'il y a des gens probablement qui ont fait leur cours comme toi à l'UQAM, puis c'est pas une pensée qui les a dérangés. Toi, à ce moment-là, ça t'avait quand même impacté.
Oui. J'aurais jamais pu imaginer que plusieurs années plus tard, je retourne à ce texte-là. D'ailleurs, j'ai donné une entrevue là, à Julie Lévesque sur ce sujet-là l'année passée. Donc là, j'élabore un peu plus qu'est-ce que c'est que la pensée de Duncan Kennedy et des gens qui étaient dans son mouvement là, qui s'appelle les Critical Legal Studies.
Okay.
Donc on est allé dans le détail, là, ceux qui s'intéressent pourront toujours aller jeter un coup d'œil. Mais donc, mon questionnement a commencé dès les bancs d'école. Puis par la suite, la pratique du droit, que ce soit le stage, les premiers emplois, on se rend très vite compte que le droit, c'est ça, on doit respecter la hiérarchie, on doit écouter nos patrons, même si notre code de déontologie nous dit qu'on a la... C'est vraiment, là, aller voir le code de déontologie des avocats, l'avocat ne doit pas laisser son jugement professionnel être influencé par qui que ce soit, par quoi que ce soit. Donc ça veut dire que dans le principe... un avocat qui est employé, on lui demande de rendre une opinion juridique, de rédiger un mémo. Il ne peut pas se laisser influencer par ni son patron, ni ses collègues. Il doit vraiment utiliser son jugement professionnel pour rendre son opinion. Mais ça, rapidement, on se rend compte que c'est beau sur papier, mais en pratique, ça fonctionne pas bien.
Oui, c'est ça, parce que c'est toujours « ne mords pas la main qui te nourrit » aussi, le fameux rapport à « d'où vient l'argent », puis c'est sûr que ça pèse en quelque part dans la balance, j'imagine.
Ben oui, évidemment, parce que moi-même, j'ai essayé de, disons, d'aller selon mon bon jugement professionnel dans différents emplois, puis ça passe pas.
Il y a aussi toute la façon de faire sa place dans un milieu d'avocat. Bon, je connais des gens qui sont devenus avocats dans la vie, puis ça me paraît tellement ingrat. Il y a tellement quelque chose, un peu le rapport, là, tu sais, les initiations super toxiques dans les fratries de police. Ou c'est comme en faire baver vraiment au nouveau pour monter les échelons. Je sais pas si c'est comme ça juste dans les grandes firmes ou si c'est un peu ce que tous les avocats connaissent, mais déjà comme pour faire sa place... Il semble pas y avoir comme un espèce de compas moral. C'est genre, tu fonces dans le tas, tu manges tes croûtes, t'es comme exploité à outrance, t'es presque pas payé. Puis un jour, peut-être que t'aspires aux hautes sphères de la... C'est-tu un peu ça? C'est-tu une image fautive que je me fais du métier d'avocat?
Je pense que c'est une bonne image. Quand tu dis on n'est pas payé, ils payent bien, par exemple, dans les grands cabinets, ils payent bien les stagiaires.
Même les stagiaires, OK.
Donc, c'est ça, on est assez bien payé. Mais je pense que c'est un portrait qui est assez juste. Mm-hmm. Mais bon, je ne vais peut-être pas faire toute l'historique. Là,
non, c'est ça.
Mais si on se rapporte peut-être à la crise COVID, alors ça a été un élément déclencheur. Mm-hmm. Ça m'a vraiment ouvert les yeux. Donc là, j'ai terminé un contrat, j'ai travaillé pour une grande entreprise dans le domaine de la distribution alimentaire puis de carburant. Donc j'étais dans j'étais dans le domaine du pétrole j'ai terminé un contrat en avril 2020. Et là, évidemment, il n'y avait pas de possibilité d'emploi, les entrevues que j'avais passées, personne n'engageait.
Étais-tu à ton compte ou tu étais pour une firme à ce moment-là?
J'étais employé à ce moment-là.
OK.
Ouais, c'est ça. Puis après ça, je suis retombé à mon compte là, parce que j'avais plus de...
T'étais sans contrat, finalement. Là.
Sans contrat. Ouais, okay. Exactement. Donc là, plein de temps pour lire, pour me renseigner. Et là, je voyais la crise qui se déroulait sous mes yeux, puis je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'ai jamais paniqué. J'ai toujours vu que... Il y avait quelque chose qui me disait « Oh, il y a quelque chose qui tourne pas rond là-dedans. » Je regardais les marchés. Je m'intéresse beaucoup à la finance. Je regardais les marchés qui baissaient, tout le monde qui paniquait, qui vendait. Mm-hmm. Moi, j'achetais.
Ah oui? Buy the dip. T'as bien fait.
Exactement. Moi, j'achetais. Je me disais « Wow, mais quelle belle opportunité. » Et déjà là, intuitivement, je me disais « Mais wow! » Mais pas intuitivement, en fait. Je le savais. Et je me disais, ben, il y a des gens qui en profitent. Mm-hmm. C'est clair qu'il y a des gens qui en profitent, mais
les grandes corporations de ce monde en profitaient déjà. C'est ça que tu veux dire?
Oui, oui. Ou les gens qui avaient de l'information préalable, les gens qui ont une connaissance des marchés, tout ça. C'est quand il y a de la volatilité comme ça que les gens font des gros profits. C'est pas quand le marché est stable qui monte tranquillement. C'est quand il y a des grosses baisses, des grosses hausses. Mm-hmm. C'est là que les gens font peuvent accumuler des fortunes.
Oui.
Donc bref, j'ai commencé à me renseigner, à faire beaucoup de lectures. Finalement, j'ai participé à un pourvoi en contrôle judiciaire, là, le pourvoi de la Fondation à l'époque. Donc je travaillais comme sous-traitant pour l'avocat Dominique Desjarlais, qui était en charge du dossier à l'époque.
Pourquoi je connais?
Ben, il était assez connu à l'époque où il était en charge du dossier là, de la Fondation, les pourvois en contrôle judiciaire.
OK.
Donc moi, j'ai appris son existence en regardant des vidéos là, avec Stéphane Blais, puis je crois qu'il y avait l'avocat Rocco Galati. Mm-hmm. Donc bref...
Oui, c'est pour ça, oui. OK, le nom est familier, ouais.
C'est ça. Donc là, j'ai fait des recherches pour lui. Hein. Je ne veux pas me donner trop de mérite, trop de crédit. Là. J'étais plutôt recherchiste.
Ouais.
Mais je pense que ça lui a donné un bon coup de main quand même. Mm-hmm. Et là, j'ai eu accès à tous les rapports d'experts qu'il y avait dans le dossier.
En 2020, là,
on était en 2000, on était au printemps 2021.
OK, donc là, il y a déjà pas mal d'informations qui étaient sorties à ce moment-là.
Il y a pas mal d'informations qui étaient sorties. Donc, il y a des rapports d'experts qui étaient prêts. On avait, je pense, 5 rapports d'experts dans le dossier.
OK.
Christian Perron, professeur Christian Perron, il y avait...
Le complotiste.
Oui,
qui ne sait pas du tout de quoi il parle.
Anti-vax.
Oui, oui.
Exactement. Il y avait une autre anti-vax complotiste, Astrid.
Tous les scientifiques, c'est Astrid Struckelberger. Finalement, ils ne savent tous pas de quoi il parle.
Ils ne savent pas de quoi il parle.
J'ai reçu 3 fois Christian Perron, d'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés à aller voir. Il explique très, très bien sa pensée.
Oui, oui, oui. Puis moi, j'ai eu l'occasion de l'interroger à la commission citoyenne. On pourra peut-être en dire un mot tantôt, ouais. Mais j'ai eu l'occasion de l'interroger sous serment. Donc, il ne pouvait pas mentir. Fait qu'il fallait qu'il réponde à mes questions sous peine de parjure. Mm-hmm. Ensuite de ça, il y avait une spécialiste des tests PCR anglaise J'ai oublié son nom, malheureusement. Là, il y avait, en tout cas, il y avait 5 rapports. Ah oui, il y avait l'épidémiologiste Laurent Toubiana, épidémiologiste français. Mm-hmm. Et on savait déjà, au printemps 2021, qu'il n'y avait pas eu de pandémie. Et je me souviens de la réaction de Dominique Desjarlais, puis ma réaction à moi quand on a vu le rapport. Puis c'est comme, Et ça, c'était un rapport qui était basé sur les données
officielles
québécoises. Et là, on voyait les différentes courbes, hein, avec la mortalité plus élevée l'hiver, plus basse l'été. Et là, on voit 2020, la pandémie mortelle, et c'est rien passé. Sauf, pour être précis, une légère surmortalité chez les plus de...
80, il me semble, 80.
Je me souviens plus, là, c'était du 65 ans.
Mais c'est les âgés, là, c'était pas les...
C'est ça. Puis on a compris après, je sais pas ce que t'en penses, mais moi, ce que j'ai compris après, c'est que cette surmortalité-là chez les personnes âgées est fort probablement due, exactement, et là, on a eu plein de témoignages là-dessus durant la commission citoyenne, là, notamment le français... Son nom m'échappe.
Qui travaille dans des CHSLD, c'est
ça? Non, qui a étudié un statisticien.
Pierre Chaillot.
Pierre Chaillot,
ouais.
Voilà.
Merci. Ouais, je l'ai reçu aussi.
Ah bon.
Ouais, alors,
le monde est petit parmi le monde du complot. Hein?
Ouais, c'est ça, la complosphère.
La complosphère.
On est d'accord qu'on rit.
En passant, je ne sais pas si tu savais que tu as invité un avocat anti-vax. Donc...
oui, toi, mais en plus, j'en ai reçu plein d'autres. Fait que j'imagine, là, je commence
parce
à la
que
liste
là,
longue des...
Toxin, ou, excuse-moi, je fais une parenthèse, mais Toxin, à qui j'ai donné une entrevue, la matinale Toxin, à qui j'ai donné une entrevue...
En France,
la nuit passée, là. J'espère que je suis pas trop...
Non, ça va.
Pas trop magané, là. Mais oui, ils ont mis dans la description un avocat anti-vax d'Emerson du Barreau.
T'es-tu sérieux?
C'est bon, OK, c'est particulier de me traiter d'anti-vax.
Pourquoi? C'est donc bien bizarre.
Je sais pas, je leur écrirais peut-être un petit courriel.
Ouais, c'est peut-être pour attirer
des
clics.
Je pense que c'est pour attirer des clics, ouais. Bon, écoute, si ça peut. Non, mais j'assume anti-vax, écoutez.
Mais ça veut rien dire, en fait.
Ça veut rien dire, c'est une insulte.
C'est ça. C'est juste une façon de discréditer puis de pas écouter ce que la personne a à dire, parce qu'on s'entend que même professeur Perron, pour prendre un exemple d'un anti-vax célèbre, lui-même a été pro-vax toute sa vie. Il a défendu les vaccins. Fait que ça veut plus rien dire, traiter quelqu'un d'anti-vax.
Non, ça veut rien dire.
C'est ça. Fait qu'on, bon, bref, on peut revenir à tes moutons. Mais donc, en 2021, tu as pris conscience qu'il n'y avait pas eu de pandémie.
Oui, c'est ça. Et là, il y avait... oui, c'est ça. Donc, moi, je savais ça en 2021. Et là, je vois que toutes les tentatives... Donc, on avait fait une demande de sursis. Ça s'apparente à une injonction, là, donc pour faire arrêter le port du masque chez les enfants. Ça, c'était à l'été 2021. Et ça, Maître Desjarlais l'a plaidé là, devant la Cour supérieure, puis ça a été un échec là, cuisant. Donc, on avait deux rapports d'experts.
La Cour supérieure, ça représente... Ouais, mettons, au Québec, c'est la deuxième étape.
Ah, bonne question, ouais.
C'est quoi, pour ceux qui connaissent rien là-dedans, comme moi?
Non, très bonne question, puis je me rends compte des fois, puis n'hésite pas à me poser des questions, parce que des fois, les avocats, on se met à parler en latin.
C'est
et puis à dire
tout ça. C'est pour vous, c'est ça. Qu'est-ce que la Cour supérieure? Course en un.
Ouais, bien, la Cour supérieure, c'est elle qui a le pouvoir... Ben, en fait, il y a une séparation selon le montant de la demande. Mettons qu'on fait une demande là, de 25 000 $, ça va être devant la Cour du Québec.
Okay.
Une demande en dommage, par exemple. Si c'est une demande de 100 000 $, ça va être devant la Cour supérieure. Donc, il y a ça comme critère. Puis, il y a d'autres critères qui sont dans le code de procédure civile. Mais sans rentrer dans les détails, un pouvoir important que la Cour supérieure a, c'est le pouvoir de révision, de contrôle plutôt, de l'action gouvernementale.
Okay.
Donc, si on veut faire un pourvoi en contrôle judiciaire pour faire contrôler les actions du gouvernement, par exemple, contrôler la légalité ou la constitutionnalité des décrets gouvernementaux qui ont été pris durant la pseudo-pandémie, c'est la Cour supérieure qui a ce pouvoir-là.
Ouais,
donc, ça, c'est la première à qui on s'adresse quand on veut faire
vu
contrôler...
Vu la nature de ce que vous plaidiez, vous avez commencé à la Cour supérieure.
Il n'y avait pas de choix, en fait. Ouais, bon, dans le principe, là, il y a la Cour fédérale. Si c'est une matière fédérale, on peut s'adresser à la Cour fédérale. D'ailleurs, il y a eu des recours en Cour fédérale, c'est ça. Mais donc, au Québec, les décrets, on s'adresse à la Cour supérieure du Québec.
Vous avez été entendu à quel moment en 2021? En 2020, il n'y a pas eu... il n'y avait pas arrêté la Cour? Il n'y avait pas eu comme on arrête, on ne fait plus de procès, puis c'est pas un service essentiel? Il n'y a pas eu ce bout-là?
Je me souviens pas.
OK, OK. Mais ça a été long avant qu'on commence à entendre des causes en lien avec le COVID, si ma mémoire est bonne.
Oui, puis pourquoi c'est lent, c'est, ouais. c'est ça, c'est en guillemets normal, là.
Okay.
Parce que par exemple, la fondation a dû, ils ont dû constituer une entité, un organisme à but non lucratif, ils ont dû engager des avocats, ils ont dû monter un dossier, obtenir des rapports d'experts.
Mm-hmm.
Donc que ça ait pris par exemple un an, c'est malheureusement c'est relativement rapide.
Ouais.
Mais
dans un contexte extraordinaire qu'on aurait voulu que les choses soient beaucoup plus rapides que ça.
Ouais, mais là, si vous voulez, si tu veux mon avis...
ouais, allez, on est là pour ça.
Ben, si tu veux mon avis, il faudrait que dans un cas comme ça, où le gouvernement déclare une urgence, tout ça, ça a été fait en vertu de la loi sur la santé publique. OK? Donc, le gouvernement avait le pouvoir, là, je sais plus si c'est Bon, le gouvernement, là, c'est-tu le... En tout cas, je me souviens plus des détails, mais le gouvernement déclare un état d'urgence. À mon avis, il faudrait que, avec la même urgence, un tribunal puisse se prononcer au cas où le gouvernement serait en train de déraper.
Pas ce qu'il a fait, là. On n'implique pas du tout qu'il y avait de dérapage. Mais mettons là, que c'était totalitaire, il aurait fallu quelque chose d'aussi urgent pour pouvoir mettre des freins, finalement, à ça.
Exactement. Puis là, aujourd'hui, ben là, c'est ça, vous avez lu, tu as certainement lu ma lettre.
Pour ceux qui ne l'ont pas lu, je vais mettre le lien, mais elle a été publiée sur Info Québec.
Sur Info Québec, ça a été repris, là, je l'ai vu récemment, mondialisation.ca l'a publié.
Okay.
On a une version en anglais qui est en attente.
Tu vas avoir beaucoup d'entrevues en anglais, ça veut dire qu'il s'en vient. T'es-tu prêt pour ça?
on va.
Whatever it takes.
Ouais, c'est ça, la France, après ça...
Mais c'est sûr que ça, ce que j'entends, en tout cas, de cet intérêt-là, parce que j'entends que tu as eu beaucoup de demandes d'entrevue, c'est rare, un avocat qui fait ce que tu as fait, c'est pas quelque chose qui court les rues. Puis ce que ça a fait aussi, je l'ai lu, puis j'ai partagé ta nouvelle, j'ai partagé ta lettre sur X, dans les commentaires, il y a des gens qui disent « Bon, c'est sûr, les gens admirent ton intégrité, puis on va revenir à ce qui a motivé ton choix, je trouve ça important.
Ouais. »
Mais en gros, c'est que les gens se disent « Mais ça veut dire que tous les autres avocats sont pas intègres. » Il y avait un peu une équation hyper facile qui se faisait. Puis j'aimerais ça savoir qu'est-ce que t'en penses, toi. Est-ce que ça veut dire que ceux qui restent dans le système pilent sur leur intégrité? Est-ce qu'ils servent la justice? Est-ce que c'est possible encore de servir la justice? Vous aimez mon contenu? Partagez-le, montrez-le en mettant une réaction comme un pouce par en haut, un j'aime, un commentaire. Toutes ces actions-là font une grosse différence dans l'algorithme. Je suis disponible sur Instagram, YouTube, Facebook et X, et maintenant, en anglais, sur YouTube et X.
Aïe, aïe, aïe. Moi, j'ai envie de dire que l'intégrité, c'est un concept à géométrie variable. Donc, je peux pas... Puis qui suis, moi, pour porter un jugement sur mes 26... 7999 anciens collègues. T'sais, c'est pas à moi de leur jeter la pierre ou quoi que ce soit. Je pense que l'intégrité, c'est ça. C'est à géométrie variable. Donc, quelqu'un qui a des bonnes conditions de travail, qui a des obligations, une famille, je sais pas quoi, il fait certaines entorses à son intégrité. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les gens ont été trompés. Les gens ont vraiment été trompés. Donc, je pense que pour... Bon, premièrement, je pense qu'il y en a plus qu'on pense qui sont de mon avis, mais qui n'oseront pas le dire publiquement, de peur des représailles qu'on connaît, hein, puis dont on a la preuve maintenant. Donc, il y a ça. Il y en a d'autres qui sont dans une forme d'aveuglement volontaire. Donc, on leur a dit, il y a un virus mortel qui fait rage, vous allez tuer vos grands-mères si vous ne faites pas piquer 10-12 fois. Bon,
et vos enfants.
C'est ça. Et la propagande qui a été déployée sur nous, ça a été fait avec une...
brio.
Avec brio, ouais.
Très, qu'ils savaient ce qu'ils faisaient.
ouais, mais là, on se comprend.
On se comprend.
Tout ça a été planifié depuis très longtemps. Ça, c'est mon avis.
Ça, c'est ton avis, ouais.
Ça, c'est mon avis, c'est, selon moi.
Mais c'est important de dire quand même, c'est l'avis de quelqu'un qui est très analytique, que tu as fait une profession d'analyser de façon factuelle la tête froide des données, puis de tirer une conclusion. Mais c'est ça ton métier, ça a été ça en tout cas jusqu'à ce que tu démissionnes. donc, si toi, tu tires cette conclusion-là, j'ai tendance à dire que c'est une conclusion qui vaut son pesant d'or. Si un avocat vient qu'à dire... c'est orchestré. Ce que le gouvernement a fait, c'était de l'ingénierie sociale. Là. Je veux paraphraser un peu, mais ça, c'est un peu ce que tu sens.
Ingénierie sociale, moi, j'aime beaucoup opération psychologique.
Oui, PSYOP en anglais.
PSYOP,
ouais.
C'est ça. Ça vient du jargon militaire. Donc, ceux qui s'intéressent, allez voir la définition.
Mm-hmm.
Donc, c'est aujourd'hui, je dirais que oui, opération psychologique, ingénierie sociale.
Ce qui t'amène donc à conclure qu'il y a des gens, finalement, qui ont tombé dans ce panneau-là, puis eux, ils ont embarqué vraiment dans ce narratif-là, des collègues à toi, d'autres gens qui continuent de... C'est ça, là, ce qui fait que le narratif ne change pas, finalement. On continue d'être convaincus qu'il y a eu une pandémie. Tu sais, même si tu dis en 2021, tu avais les preuves qu'il n'y en avait pas.
Oui.
On est maintenant en 2024.
Ouais.
Et on continue. Il y a encore des gens qui se font vacciner contre le COVID. Dur à expliquer, non?
Oui, contre la COVID. Puis quand on va leur dire qu'il y a une épidémie de rougeole, il y a une épidémie de je sais pas quoi, ils vont y aller.
Oui, parce qu'ils
sont convaincus, ils ont peur. Ils ont peur. Ils pensent...
Il y a aussi le devoir citoyen qui est fort, je pense. T'sais, on a renforcé beaucoup ça, je trouve, dans les dernières années. Être un bon citoyen, tu sais. Greater good. On fait les choses pour le bien commun.
Le bien, oui.
Penser à la communauté. Quitte à plus vraiment penser à toi, parce que ce qu'on pourrait dire, c'est moi, je suis en bonne santé, je suis pas à risque.
Mm-hmm.
Toutes les choses, c'est les jeunes qui se disaient, moi, j'ai pas envie d'avoir une myocardite, par exemple. Je suis un jeune homme en bonne santé. Il y a même des pays comme, je pense, en Suède, qui ont interdit l'injection à une tranche des 18-35 ans des hommes.
Oui, c'est vrai, oui.
Donc, il y a quand même des pays, tu sais, c'est la même injection. Il y a des pays qui l'interdisent. Puis sinon, si tu étais un homme dans cette tranche d'âge-là, mais au Québec, qui disait, moi, je préfère pas l'avoir, mais là, tu étais un égoïste, un sans-cœur, tu mettais la vie de ta grand-mère en danger. Tu sais, on parle de le même traitement médical. Donc, c'est quand même particulier qu'on n'ait pas eu le droit d'avoir des jeunes pouvoir prendre cette décision-là pour leur propre corps. Parce que là, c'est comme si on nous dit, non, t'es plus assez intelligent pour penser pour toi-même. Mais ces experts-là, TVA, savent ce qui est bon pour toi. Puis là, il faut que tu écoutes ces experts-là que tu ne connais ni d'Ève ni d'Adam qui te disent qu'est-ce qui est bon pour ton corps. C'est particulier quand même.
Mm-hmm.
Pour moi, je peux pas adhérer à ça. C'est tellement gros.
Oui.
Moi, ça m'a... Tu dis que tu n'as jamais embarqué, moi non plus. C'était trop gros. Je me dis, c'est trop évident qu'il y a quelque chose de toxique dans cette opération-là qui est en branle. T'sais, je me disais, je vais essayer de comprendre ce qui se passe. Y a-tu vraiment un virus? T'sais, on est allé voir... Il y avait déjà très tôt des docteurs qui ont pris la parole pour dire les chiffres qu'ils nous donnaient, là, c'est pas vrai, là, la réalité, il n'y a pas tant de monde que ça qui meurt. Ceux qui meurent, c'est des personnes très âgées, comme tu disais tantôt. En mars, là, je me rappelle, c'était en mars, docteur Erickson, en Californie, disait déjà, il n'y a pas l'épidémie.
Ça, c'était les deux médecins, c'est ça?
Exactement, qui ont été censurés. Mais moi, ça a été comme... C'est venu valider déjà mon instinct qui me disait, ça se peut pas ce qui se passe. Puis il y a déjà ces deux hommes-là qui étaient censurés. La vidéo, elle a été... effacée. Puis là, on s'était mis à la repartager plein de monde, mais elle se faisait supprimer là, en quelques minutes à chaque fois qu'on la repartageait.
Oui.
C'est là qu'on a vu aussi la censure arriver. Puis là, ça a fait comme, OK, on vient de tomber dans un paradigme où propager l'information est extrêmement difficile.
Mm-hmm.
Fait que là, on a vu aussi tout ça s'installer. T'sais, c'était, comme tu dis, c'était très, très généralisé. Ça faisait vraiment une opération. On a transformé la façon qu'on reçoit l'information. Puis si tu t'informes, en plus, toi, tu fais tes recherches dans ton métier, je sais pas, tu tombes dans quelle case, si t'es vraiment un complotiste, mais si t'es un avocat, t'as le droit de faire tes recherches. Je sais pas comment ça marche.
Je sais pas, je suppose que je suis avocat complotiste.
Ouais, anti-vax. C'est ça. En tout cas, tu fais tes recherches. Fait que quelque chose qui marche pas, là. C'est dangereux.
Ouais, ouais. Puis souvent, c'est une question que je me pose, c'est pourquoi nous autres? Pourquoi on a vu ça, puis les autres, ils l'ont pas vu?
T'as-tu une réponse?
Parce que, tu sais, je suis bon pour faire des recherches, hein. Je peux me donner cette qualité-là. Là. Je suis bon pour faire des recherches. J'ai été formé pour ça, puis je pense que je suis assez bon.
Mm-hmm.
Puis même, c'est ça, je suis bon pour faire des recherches. Pourquoi les autres ne les ont pas faites? C'est une question que je me pose encore toujours.
Mais as-tu la réponse? Ou non?
Ben, j'ai des pistes, là. Ouais. Je pense peut-être notre parcours de vie. Notre parcours de vie, est-ce que quelqu'un qui a, par exemple, déjà été manipulé dans le passé, qui a déjà vécu une forme de manipulation dans son enfance ou quoi que ce soit, là. Je parle pas de mes parents. Non, non, c'est ça, mais que ce soit avec des amis manipulateurs ou quoi que ce soit.
On peut reconnaître plus facilement ces mécanismes-là.
C'est ça. Peut-être qu'on l'a déjà vécu dans notre enfance ou je sais pas où. Peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est tout le... Mais peut-être même le parcours scolaire, professionnel. Donc d'avoir... Moi, j'ai travaillé dans plusieurs milieux de travail. Et les expériences que j'ai eues, j'ai travaillé pour le gouvernement, parapublic, j'ai travaillé en entreprise, en cabinet, petit, grand, et je vois des patterns, c'est peut-être ça l'explication.
Moi aussi, j'ai pas vraiment d'explication. Mais j'avoue que c'est une question qu'on se pose souvent. Qu'est-ce qui fait?
Ouais.
Moi, ma théorie, c'est qu'il y en a qui sont... Là, je vais tomber vraiment complotiste. C'est rare que je me permette d'aller dans le complot, mais...
Ils sont des élus.
Non, qu'ils me passent ce point-là. Non, mais je pense qu'il y en a qui sont plus susceptibles d'être hypnotisés que d'autres, qui sont plus sensibles à l'hypnose. Ça, c'est ma théorie. Je pense qu'il y a une question... La façon... C'était assez évident qu'il y avait des mécanismes d'hypnose qui étaient utilisés, de répéter constamment les mêmes phrases, de créer de la confusion mentale en donnant une donnée, puis après la contradiction le jour suivant. Donc toujours, tout ça, c'est des trucs qui sont utilisés pour hypnotiser les gens. Oui, et il y a plein d'hypnothérapeutes qui ont dénoncé, qui reconnaissaient les techniques d'hypnose. Là. Fait que moi, je sais que je suis pas quelqu'un qui est sensible à l'hypnose. Fait que j'ai l'impression qu'à cause de ça, j'ai pas embarqué là-dedans. Ça a pas fonctionné sur moi. Je faisais juste voir les contradictions. Puis je me dis, mais comment ça que le monde ne voit pas à quel point c'est... Un jour, le masque, c'est correct, le lendemain, c'est plus bon, après, c'est encore bon, là, c'est... Voyons, 6 pieds et demi, la distanciation, 6 pieds, 2 mètres, 1 m 80. Si t'es debout, tu peux mettre le... Mais si t'es assis, si tu vas aux toilettes, faut que tu remettes le... Tu sais, à quel point c'était ridicule? C'était une chorégraphie, en fait. Fallait apprendre la chorégraphie pour être un bon citoyen.
Mm-hmm.
C'était juste ça. C'était, en fait, c'était de la vertu, là. C'était plus une question de propager ou non le virus.
Ouais.
Mais je vais revenir à finalement, oui. Parce que c'est de toi que je veux parler, pas autant de la pandémie, mais c'est sûr que ça a été le moteur pour toi qui, ouais, vraiment, qui t'a amené un jour, début avril, à dire « je démissionne du barreau ».
Ouais.
Mais mettons, entre tes études, entre le début de la pandémie, que là, t'es rendu vraiment « ouf, OK, il y a quelque chose qui se passe que j'aime pas, que tu parles de l'intégrité, de ton intégrité. »
Ouais.
Puis remettre une démission au barreau, là. Qu'est-ce qui se passe entre ça et ça?
Oui, ben je vais peut-être accélérer l'histoire. Il y aurait tellement de choses à dire.
Oui, mais c'est intéressant parce que ça ouvre plein de parenthèses.
Il y aurait tellement de choses à dire.
Oui.
Donc, j'ai commencé à m'impliquer avec Réinfo COVID Québec.
Ouais.
Aujourd'hui, le Réinfo Québec.
Oui.
Donc là, j'ai rencontré des médecins, des professionnels, des scientifiques. Fait que là, je savais déjà qu'il n'y avait pas eu de pandémie, mais là, j'ai encore plus d'informations, encore plus de contacts.
Fait que tu fais du billet de confirmation.
Là... Pardon, oui, c'est ça, je fais du billet de confirmation, exactement. non, ce que j'ai fait, c'est du discernement. Donc, j'ai vu la version A, j'ai vu la version B.
Parce que j'ai conclu... aussi, c'est ça, la version officielle, tu continues de l'analyser.
Ben, elle est partout.
Ouais, c'est ça, c'est dur de passer à côté.
Tu sais, même si je ferme ma radio, je ferme ma... J'ai pas de télévision, évidemment.
Ouais.
Comme tout bon complotiste, tout le monde,
ouais.
C'est ça.
Exact.
Donc, pas de télévision, pas de radio, fait que je m'en préserve le plus possible, mais c'est partout.
C'est partout.
Hey, les arrêts de bus, je me souviens, les arrêts de bus avec des allez vous faire vacciner, les vaccins ont été autorisés. Ils n'avaient pas été autorisés!
Aïe, c'est incroyable.
C'est comme, comment vous pouvez nous dire ça?
Nous mentir en pleine figure, ouais, à ce point.
Ils ont eu une autorisation d'urgence, puis là, vous nous dites, les vaccins sont sûrs, efficaces, autorisés, selon les tests les plus rigoureux, blablabla.
C'est quand même troublant de penser.
Ils nous mentaient comme ça, en pleine face,
mm-hmm,
sur des publicités, sur des abribus. Fait que même si je ferme ma radio, j'ai ça dans la face.
Oui, c'est ça. Tu peux pas le contourner. Là. Ouais. Fait que donc, tu analysais les deux.
Donc,
là.
C'est ça. Donc, j'ai vu les deux côtés de la médaille, si on peut dire comme ça. Là, ouais. Mettons le scénario A, le scénario B.
Mm-hmm.
J'en vois un qui est complètement illogique, irrationnel, mensonger, frauduleux, utilise les mots que tu veux. Puis, mm-hmm, j'en vois un autre qui est... rationnel, modéré, pondéré,
ouais,
et tous ceux qui essaient d'appuyer la version B se font systématiquement censurer, attaquer, discréditer. Mais c'est quoi que ça prend le plus pour que les gens comprennent?
Moi, j'arrête là, je suis d'accord avec toi. Je suis en même place que toi.
Bon, fait que là, je vois justement les professionnels qui commencent à se faire attaquer.
Oui. Adulé avant. Tu sais, son prêtre Christian Perronne, par exemple, il était, ouais, invité régulièrement sur les plateaux de télévision, les grandes chaînes BFM, tout ça.
Ouais.
Puis du jour au lendemain, le jour qu'il a décidé de dire « j'y crois pas trop à l'injection ARN messager », fini. C'est fini. Tu peux avoir 20 ans, 30 ans, que Raoult, même chose, il était régulièrement invité sur les plateaux de TV en France, tout le monde l'aimait, tout le monde, bon, c'était une sommité mondiale, Caroline, puis vous l'avez dans votre pays, il y a de quoi s'en targuer. Et là, soudainement, du jour au lendemain, c'est un fou furieux, en plus, il a les cheveux longs, puis il a de l'air un petit peu d'une rockstar, c'était donc bien facile.
Il y a une bague avec une tête de mort.
En plus, fait que c'était donc bien facile de l'assassiner publiquement. Pis c'est ça, c'est de voir comme des gens qui avaient des réputations béton, même eux, se sont fait assassiner publiquement. Donc, ça donne un peu le ton à un petit médecin qui sort de son école, qui commence sa pratique. Ça donne pas le goût là, d'aller endosser professeur Raoult ou professeur Perron. Ça donne le ton. Là.
un médecin qui commence sa pratique, est-ce que tu as quelqu'un en tête?
Non, il y en a-tu qui ont donné leur opinion publiquement?
Okay. Ben oui, au Québec, il y a un docteur qu'on a appelé affectueusement le doc TikTok.
Je ne le considère pas comme un docteur, c'est pour ça que son nom n'est pas venu à l'esprit.
Qui
s'appelle lui-même docteur TikTok, il est devenu connu
sur TikTok. Non, sur son TikTok, il se nommait lui-même Walmart.
Ah, Trudeau.
Trudeau.
Oh mon Dieu, qui m'énerve. On pourra couper au montage, mais tout le monde sait que je n'ai pas beaucoup d'affection pour lui.
Donc lui a debunké le docteur Robert Béliveau, qui est un médecin formidable.
Retraité, fait que lui, il n'avait pas peur de parler.
Maintenant à la retraite, qui a une carrière, une longue carrière, et là, t'as un blanc bec qui vient lui dire... Ah ben non, lui...
Encore la couche aux fesses, puis il donne un coup. C'est incroyable l'arrogance que ça
m'a... Oui, il est médecin. Aux dernières nouvelles, il était médecin résident.
Ouais, ouais.
Un médecin résident, c'est un médecin, une sorte de stagiaire, si on veut.
Commence sa vie.
Qui commence sa carrière professionnelle.
Ouais.
Mais bon.
Ouais, c'était la parenthèse. Mais tu sais, c'est le seul. Puis celui-là, il n'est pas venu approuver toutes les thèses dont tu parles, qui étaient pondérées, nuancées. Il est allé comme renforcer un discours... mensonger, frauduleux. Lui, OK, ça, on a vu plein, là, des gens qui sont jeunes, qui font ça, mais des jeunes qui risquent tout, c'était pas mal plus difficile à faire. Parce que là, tu sais, ça signifiait... Ben, finalement, c'est la fin de ta carrière, si tu fais ça.
Non, c'est ça, il n'y en a pas vraiment eu. Puis là, ce que j'ai observé, c'est, au Québec, tous les professionnels ou les universitaires qui prenaient la parole étaient donc, c'est ça, systématiquement attaqués. J'ai commencé à en défendre certains.
Ah ouais, OK.
Oui, donc l'infirmier auxiliaire Sébastien Cormier.
Qui lui voulait pas, j'imagine, se faire injecter. C'est ça que tu défendais dans la cause ou...
Non, c'est que lui avait... j'imagine qu'il voulait pas se faire injecter, okay, mais...
Mais c'est quoi que tu défendais d'abord?
Ah, mais c'est que lui avait... il avait osé faire des vidéos puis les publier sur Facebook, si je me souviens bien.
Okay.
Et dans ces vidéos-là, il critiquait le gouvernement Trudeau, le gouvernement Legault. Il disait pas aux gens allez vous faire ou pas vous faire vacciner. Mm-hmm. Il critiquait finalement les décisions politiques.
Ok.
Et il a été poursuivi par son autre professionnel. Mais il y en a plein d'autres là. J'ai défendu aussi le professeur Christian Linard, lui à l'époque était membre de l'Ordre des chimistes du Québec, mais il avait démissionné. Ah tiens, il avait démissionné le jour où il enregistrait une émission avec toi.
Je ne savais pas si c'était la même journée, je savais qu'il avait éventuellement démissionné.
Oui, tu t'en souviens?
Oui, c'est sûr.
Et quelques jours plus tard, il y a un article qui est sorti dans la presse.
En fait, c'est les décrypteurs qui se sont attaqués. Décrypteurs qui ont fait une émission complète. Moi, je ne l'ai pas écouté, fait que m'excuserai, ça se peut que ce genre d'affaires ne m'intéresse pas, mais ils ont fait un article très, très, très détaillé où ils reprenaient les propos chrétiens de Bernard Massy, puis de professeur Provost. Là, on pourra parler de Patrick Provost tantôt.
Oui, bon, ça, c'est une autre affaire. Là, je parlais du professeur Christian Linard. Ouais. 10 jours après la publication de l'article des décrypteurs, où je ne me souviens plus de quel article, mais ça devait être celui-là, 10 jours plus tard, plein disciplinaire. Et là, je l'ai représenté là, pour une demande en rejet, puis pour le procès au fond, là, donc là où on a vraiment débattu
l'affaire. On dirait que je me sens mal d'entendre ça. Je ne savais pas qu'il y avait... C'est quand même...
Mais les gens ne savent pas.
Non, mais puis on n'est pas resté en contact. Je ne savais pas, Christian. J'ai gardé contact avec plus Patrick Provost par un concours de circonstances. Je veux dire, j'ai énormément de respect pour Christian Linard. Ça a juste à donner qu'on ne s'est pas réécrit après. Mais je trouve ça... Tu sais, même chose, j'ai écrit à Patrick cette semaine pour lui dire juste que j'étais tout cœur avec lui. Là, j'ai gardé contact avec Patrick aussi. Mais je trouve ça crève-cœur. D'avoir donné la parole. Tu sais, moi, c'était ça mon mandat. C'était « je veux des nuances, juste pour savoir », puis on était une gang derrière ça. Là, j'ai pas du tout la prétention de dire « j'ai parti juste pour savoir tout seul ». On était une grosse équipe derrière ça. C'était un talk show quand même, puis fait avec 0$. Là. Vraiment, tout le monde a donné de son temps bénévolement là-dessus. Le lieu où on tournait nous a été prêté gratuitement. L'équipement m'a été prêté gratuitement. Énormément. Ça montre qu'il y avait un besoin criant de ça. Puis plein de monde était comme, mais pas mon nom nulle part, mais on vous supporte, tu sais. Puis on a donné donc la parole à ces scientifiques-là. Puis là, tu sais, d'apprendre que Christian a eu une plainte. Puis que, après voir Patrick Provost, à quel point il a été aussi. Il vient de perdre son emploi. C'est pas à cause de moi, là, pas du tout. Mais on a fait partie. On a juste essayé de ramener des nuances. Puis de voir le courage que ces gens-là ont eu, à quel point ça leur a coûté, moi, ça me fait de la peine. Vraiment, ça m'attriste énormément en 2024 qu'on soit encore là.
Mais moi aussi.
C'est extrêmement troublant.
Mais moi aussi, et là, je vais répondre à ta première question au bout d'une heure de discussion.
Vas-y.
Donc là, je me rends compte que tout est verrouillé partout. Tous les professionnels qui ont pris la parole, puis là, je pourrais faire toute une liste. Là. Il y a eu un psychologue, Vincent Mathieu, ça, c'est pas moi qui l'ai, qui l'ai représenté, mais qui a plaidé coupable, puis qui a dû...
Ah,
bon.
Ouais.
Il y en a eu plein. Il y a eu un médecin, je crois, en Gaspésie. Il y en a plein.
Oui, au début, en Gaspésie, oui.
Donc, c'est ça, c'est systématique.
On les a fait taire.
On les a fait taire, d'une façon, c'est ça, très méthodique, très systématique. Tu sais, qu'on parle de planification.
Mm-hmm.
Puis pourquoi toutes les décisions ont été défavorables? Pourquoi il n'y a aucun professionnel qui a été acquitté?
Zéro. Pourquoi?
Donc là, je fais ce constat. Pourquoi?
As-tu une réponse? Mais comment expliquer ça?
Oui, bien, encore là, dans ma lettre, j'essaie de l'expliquer. Donc, dans ma lettre, en 3 pages, j'ai essayé de condenser 4 ans de travail.
Mm-hmm.
Ça n'a pas été facile là, de pondre cette lettre-là, là, mais je suis content de l'avoir fait. J'arrive à la conclusion que tout ce qu'on a vécu, ça a pris un contrôle de l'information intégrale et ça a pris une complicité de certains acteurs clés au sein des institutions. Je suis en train de faire une théorie du complot.
On aime ça.
On aime ça. Donc, c'est sûr qu'il y a quelqu'un quelque part qui a dit peut-être à une présidente de conseil, d'une présidente, la présidente en chef, par exemple, des conseils de discipline. Oui, c'est ça son titre. Présidente en chef des conseils de discipline. On va s'arranger pour que, c'est important, il y a une pandémie mortelle, on va s'arranger pour que le message du gouvernement ne soit pas contredit.
Mais ça t'assume, tu n'as aucune preuve qui t'amène à...
Oui, là je spécule.
Ouais, tu spécules,
je spécule, puis je ne fais pas d'attaque personnelle.
Mais
mettons qu'on voulait faire un coup comme ça, là, moi, c'est comme ça que je ferais.
Mm-hmm.
Je mettrais des gens à des positions clés et je leur dirais, ben faites passer le message.
Ouais.
Faites passer le message au président de conseil de discipline qui, eux, vont passer le message aux membres des conseils de discipline. Je ferai passer le message au syndic des autres professionnels en leur disant, ben là, écoutez, allez-y, là, la chasse est ouverte.
La chasse aux sorcières.
La chasse, c'est ça, la chasse est ouverte. Donc, plus vous allez pogner de professionnels, mieux c'est. Vous allez sauver la population québécoise.
Oui, oui, parce qu'on leur donne aussi, on peut, si on spécule, puis je continue de spéculer avec toi, c'est fait dans un but... Tu sais, parce que des fois, les gens disent « Ah, les théories du complot, voyons, les gens sont pas tous comme ça », mais c'est aussi, il faut pas oublier que ce qui est fait, c'est pour le bien commun. Tu sais, les gens qui ont fait ça, qui partent en chasse, là, ils pensent vraiment qu'ils le font pour le bien commun.
Je pense qu'ils pensent vraiment, oui.
Ouais, moi aussi.
Malheureusement, à leur insu, ils ont été... en fait, à leur insu, on profite d'eux.
Mm-hmm.
Mais eux en profitent un petit peu, parce qu'ils ont un bon salaire, un bon emploi. C'est une forme de complicité
indirecte, en fait, parce que les gens-là, je pense pas qu'ils sont conscients de l'ampleur de...
Je pense pas non plus.
Ouais, c'est ça. Honnêtement, ma compréhension de l'humain m'amène à penser que l'humain veut faire le bien, foncièrement. À part, comme je dis tout le temps, il y a des psychopathes partout, là. Ils nous dirigent, la plupart, mais on s'entend que la plupart des gens sont... Je rencontre des gens dans la rue, si tu tombes, ils vont venir t'aider. Bon, en général, les gens veulent faire le bien. Donc, c'est pour ça que j'essaie de comprendre les rouages de ça, puis je me disais, il faut emballer ça dans un cadeau où ça fait comme, regardez comme vous êtes une bonne personne en faisant ça. Puis on leur a vendu ça.
Donc, continuons dans la spéculation, puis dans la théorie, là. Mettons là, qu'il y a des gens quelque part, des méchants, là, qui voulaient apporter des changements profonds dans notre société, qui veulent faire de l'ingénierie sociale ou qui veulent... je sais pas, m'opérer un transfert de richesse vers eux, s'enrichir.
Ouais.
Mettons qu'il y a des gens dans le monde qui veulent s'enrichir.
Mettons, c'est dur à concevoir, mais...
Ouais, je vois. Bon.
Mettons.
Faites preuve d'imagination, là.
C'est ça.
Donc, mettons qu'il y a des dictateurs en devenir là, qui veulent nous enlever des droits et libertés, qu'est-ce qu'ils vont faire? Du jour au lendemain... Ils vont arriver et ils vont dire « À partir d'aujourd'hui, vous n'avez plus de liberté d'expression, vous n'avez plus de liberté d'opinion, vous n'avez plus de liberté de manifestation. »
On censure tout ce
on
qui est
On censure tout. Mais non, mais c'est pas ça qu'ils vont faire. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont...
Qu'est-ce qu'ils vont faire, dis-moi?
Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont utiliser un faux prétexte, ils vont utiliser une fausse urgence. Et là, sous le couvert du bien commun, ils vont nous amener à nous-mêmes
demander ça.
À nous-mêmes, accepter avec le sourire de renoncer à nos droits et libertés les plus fondamentaux. Le droit au consentement libre et éclairé, le droit de refuser un traitement médical.
Expérimental de surcroît.
De surcroît, c'est ça. Mais tout ça, c'est dans le Code civil du Québec et dans nos chartes des droits et libertés. Le droit de refuser un traitement médical, c'est aussi dans le Code civil du Québec.
C'est pour ça que, mettons qu'on fait un grand loup, comment ça que 100% des causes ont été perdues si c'est dans le Code de ce que tu viens de nommer? Là. Le Code pénal, le Code des droits, c'est quoi le Code des libertés?
Ouais, au Québec, on a un Code civil du Québec là, qui régit surtout les rapports privés entre les personnes, c'est-à-dire les contrats privés, hein, les contrats de commerciaux ou quoi que ce soit. Mais le Code civil du Québec aussi comporte certaines dispositions là, sur nos droits fondamentaux. Là, entre autres, le consentement aux soins, c'est dans le Code civil du Québec.
Mais si c'est dans le Code, pourquoi ça n'a pas valu rien quand on était rendu en cours?
Ben, OK, oui, c'est une très bonne question. C'est parce qu'en fait, c'est ça la beauté de la chose, c'est ça la beauté de l'opération psychologique, c'est que on a indirectement fait ce qu'on ne pouvait pas faire directement, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas nous forcer, littéralement, là, je veux dire avec le gun sur la tête, on ne pouvait pas nous forcer à nous faire injecter le fameux produit expérimental toxique. Là. c'est moi qui dis toxique. Là.
Oui, oui.
Donc, on ne pouvait pas, on nous a pas mis le gun sur la tête, puis on ne pouvait pas nous forcer, mais ceux qui ont fait ce coup-là le savaient très bien. Donc là, OK, on va vous menacer de perdre vos emplois, la coercition, exactement. Mais ils ne pouvaient pas faire ça. Ben, c'était pas légal non plus. Je ne suis pas en train de dire que c'était légal de faire indirectement ce qu'ils ne pouvaient pas faire directement. C'est illégal.
Mm-hmm.
Mais étant donné qu'il n'y a personne qui a été littéralement forcé, c'est pour ça.
C'est pour ça qu'il y a une espèce de débat révoltant autour de la question « Vous aviez le choix ». Non, on n'avait pas le choix. Ben non. Désolée, on n'avait pas le choix. Mais il y en a, comme ceux qui ont adopté le narratif, viennent écrire, c'est toujours sur les réseaux sociaux que je vois ces commentaires-là, « Ben oui, vous aviez le choix, puis excuse-moi, quand tu vas perdre ton emploi, puis que tu as des enfants, ou même toute la pression sociale, tu sais, je pense à un jeune qui joue au hockey, qui soudainement ne peut plus voir ses amis, n'a plus de vie sociale... C'est pas un choix, ça. C'est quand on est des aides sociaux, les humains, là, c'est privé d'une portion immense de ce que ça représente ta vie, surtout à l'adolescence ou jeune adulte, peu importe. Fait que, tu sais, je trouve ça vraiment dégueulasse qu'on nous fasse à croire qu'on a eu un choix, parce que pour moi, de la coercition, c'est pas un choix. Mais comme tu dis, ils l'ont contourné pour nous faire à croire, en tout cas, du moins, j'imagine qu'il y a moyen de le débattre en cours, de dire, ben, il y avait le choix. C'est ça? C'est qu'ils peuvent comme flaguer un peu ça. Enfin, ben non, il y avait le choix. Ils ont choisi de perdre leur emploi plutôt que de se faire injecter, mais il y avait le choix, c'est ça?
Bon, il y a eu plusieurs recours. Là. Puis là, je connais pas tous les détails de chacun des recours, mais tout a échoué de toute façon. Hein. C'est ça.
Mais là, mais est-ce que ça veut dire que ça va continuer d'échouer? Parce qu'il y en a encore qui sont encore en cours. Tout n'a pas été non plus entendu.
Ouais, ben ça va. Ouais, ben là, je vais faire une prédiction, mais malheureusement, puis je veux pas avoir l'air défaitiste ou pessimiste ou quoi que ce soit. Là, des fois, je me fais reprocher ça.
Ben, si t'as démissionné, tu dois quand même être assez... tu dois perdre beaucoup d'espoir dans le système.
Bon, là, il y a une autre affaire qui est dans ma lettre, puis ben, je pourrais peut-être en parler brièvement, c'est que... Dans l'affaire de Lily Monnier contre le procureur général, là, donc le fameux recours sur lequel j'avais travaillé au début, qui a été rejeté sommairement en juin 2023, c'est Lily Monnier qui a repris le recours de la Fondation suite
Lily Monnier, c'est une avocate ou...
Non, c'est une citoyenne.
OK.
Donc, suite au départ des avocats du dossier, c'est des citoyens qui sont devenus les demandeurs.
Okay.
Donc, il y a Madame Lily Monnier et d'autres demandeurs qui sont maintenant en charge du dossier. Ce dossier-là a été rejeté sommairement en juin 2023.
OK.
OK. Ils ont fait une demande de permission d'appel qui a été rejetée, elle, en janvier 2024, donc récemment.
OK.
Ils ont fait une demande de permission d'appel en Cour suprême. Et les probabilités, là, c'est vraiment juste si on regarde les statistiques de la Cour suprême du Canada, les chances qu'un recours soit autorisé et que ce recours-là, finalement, soit débattu, puis qu'il y ait un succès, c'est infime. C'est infime. Et dans le contexte sociopolitique, c'est impossible.
Tu dirais que c'est nul?
C'est nul. Ben, j'espère que je... C'est nul. Et dans la décision de la Cour supérieure de juin 2023, OK. Le juge, c'est le juge Pinsonneau, est venu dire qu'il était de connaissance judiciaire. OK, je vais expliquer après. Il est de connaissance judiciaire qu'il y a eu une menace grave à la santé de la population qui justifiait les mesures qui ont été prises pour contrer cette fameuse menace grave-là. OK, ce que ça veut dire, la connaissance judiciaire, c'est un concept en droit de la preuve, c'est-à-dire que ça devient une vérité.
C'est ça qu'on appelle une jurisprudence, non?
Oui, on peut dire que cette décision-là fait partie de la jurisprudence. Ouais. La jurisprudence, c'est l'ensemble des décisions qui sont rendues là, sur un sujet donné. Donc ouais. Là, oui, cette décision-là vient créer une jurisprudence sur cette question-là.
Puis là, donc, maintenant, le préséance, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a une décision qui est rendue, on se réfère à ça.
Oui. Donc là, quand, mettons là, que quelqu'un aujourd'hui décide de déposer un nouveau recours pour je ne sais pas quoi en lien avec la pseudo-pandémie, ah ben là, il va se faire dire, mais non, mais là, vous ne pouvez pas contester ça, parce que c'est de connaissance judiciaire. C'est un fait.
Ça devient dont... comme une vérité avec un V majuscule. Là.
Exactement.
C'est la sainte vérité.
Exactement. Et ça, c'est extrêmement grave. J'avais d'ailleurs fait une conférence l'été passé où j'ai parlé de ce sujet-là.
OK.
Ça sera peut-être diffusé. Bien, ça n'a pas été diffusé encore, mais ça sera sûrement diffusé bientôt.
Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'ils attendent?
C'est d'actualité.
Ouais. Le retour du Messie, qu'est-ce qu'ils attendent pour la publier? Ça fait longtemps que tu l'as fait, ta conférence.
Ouais, ben, tout un concours de circonstances, mais je vais pousser.
Oui, vraiment, tout à fait, parce que je n'étais pas au courant de... De tout cet aspect juridique-là, mais
oui, puis c'est technique, tu sais, puis les gens, bon, ben, je veux dire, les gens, c'est... Ben, c'est ça, ça peut avoir l'air complexe, donc moi, j'essaie de le vulgariser. Donc, à partir du moment où quelque chose est de connaissance judiciaire, c'est ça, c'est quelque chose dont la notoriété est tellement grande, tellement évidente qu'il n'y a pas de chance... Ben, premièrement, qu'on n'a pas besoin de le prouver, c'est-à-dire que le gouvernement n'aura jamais besoin de prouver qu'il y avait eu une pandémie grave. Au contraire, si quelqu'un veut contester ce fait-là qui est devenu de connaissance judiciaire, mais il va se faire dire « mais vous n'avez aucune chance de succès ».
Je comprends. C'est quand même extrêmement grave.
Puis là, si je fais encore des prédictions, là, j'ai pensé à ça récemment, ça ne m'étonnerait pas que... S'il y avait des gens qui faisaient des demandes en ce sens-là, hein, pour contester l'existence de la menace grave, ils pourraient même se faire dire qu'ils sont quoi? Qu'ils sont quérulents. Ça, c'est un autre mot savant là, qui vient du domaine de la psychiatrie. Oui, oui.
Okay.
Qui veut dire quelqu'un qui fait des demandes farfelues devant les tribunaux.
Tu peux faire ça, OK.
Ouais, oui, il y a des oui, c'est ça, il y a une procédure dans le...
C'est pour disqualifier finalement la demande dans l'œuf, le statut dans l'œuf. C'est pas entendu, ça veut dire si ta demande est jugée quérulente, j'imagine qu'il y a personne qui va l'entendre.
Oui, c'est le plaideur, c'est le demandeur qui est qualifié de quérulent. Donc, si un demandeur est qualifié de quérulent, de plaideur quérulent, c'est comme ça qu'on appelle ça, il peut plus demander, il peut plus faire de demande en justice, sauf...
Jamais,
sauf s'il reçoit l'autorisation du juge en chef, là, si je me souviens bien. Donc... En tout cas, je fais des prédictions encore un peu...
Fait que tu penses que si on essaie d'aller détruire ce fameux narratif, mettons que Denis Rancourt aurait une envie folle, lui, de poursuivre, lui qui, depuis le début, dit qu'il n'y a jamais eu de pandémie.
Je suis vraiment un fan de professeur Denis Rancourt, en passant. Là, j'ai lu toutes ses études.
Oui, puis c'est ça, il soutient quand même avec énormément d'analyses, de données, tout ce qu'il apporte depuis le début. Puis lui, dès le jour 1, puis ça, je l'ai déjà dit publiquement, il n'a pas voulu venir parce qu'il faisait partie des professionnels que j'avais approchés pour être sur le panel avec Patrick Provost, Bernard Massy, Christian Linard. Puis on s'était parlé longtemps au téléphone. J'ai beaucoup de respect aussi pour Denis. Puis Denis m'avait dit en toute franchise, moi, j'ai pas d'intérêt à participer. Si l'angle, c'est pas qu'il n'y a pas de pandémie. Puis ce qu'on disait tout à Denis, c'était bien, il faut se rappeler qu'on est début 2022.
Oui.
On se disait, les gens sont pas prêts du tout à se faire dire ça. Tu sais, il faut les prendre là où ils sont. Mais lui, il disait, moi, j'ai pas d'intérêt. Tu sais, lui, c'était ça. Puis je respecte, il a tenu la ligne, puis c'est ça qu'il dit depuis le début. Mais ça veut dire que si quelqu'un avec quand même le cerveau de Denis Rancourt décidait d'aller en justice pour dire, là, ça va faire le niaisage, on va défaire tout ça, il pourrait se faire tout de suite rejeter du revers de la main, dire que...
Ah ben oui.
On l'écouterait pas, puis c'est tout.
Oui, oui, mais on pourrait, mettons que c'était lui personnellement qui faisait ça, on pourrait dire, ben oui, il est un plaideur quérulent.
La probabilité qu'on renverse le narratif est de combien, toi? Mettons la chiffre, là.
La probabilité que les tribunaux au Québec ou ailleurs dans le monde acceptent de faire un débat scientifique honnête mm-hmm. est de 0,00000.
T'es à ce point-là convaincu qu'il n'y aura jamais...
C'est pas pour rien que je démissionne.
Ouais.
Puis pourquoi ce débat-là, il n'y aura pas lieu? Et ça, je l'écris dans ma lettre.
Mm-hmm.
Il n'y aura pas lieu parce que...
Je me souviens de ta réponse, mais vas-y, pour ceux qui n'ont pas lu ta lettre.
Il n'y aura pas lieu parce que des fonds du narratif, là, récit officiel, il tomberait en miettes, là, mais ce serait un massacre total.
Tu penses qu'il y a trop de gens qui risquent trop, en fait, pour que ça puisse arriver?
Donc, premièrement, le débat scientifique, il serait gagné en 3 minutes. Là.
Ouais.
On prend les chiffres officiels, tac, tac, tac. L'affaire est close. Là. Le récit gouvernemental officiel tient pas la route 2 secondes. Le récit des... c'est pas un récit, là. Les faits réels qui sont...
les données empiriques, finalement.
Les données empiriques que tous les scientifiques intègres du monde ont essayé de...
mettre de l'avant.
De communiquer, de mettre de l'avant. Et je me souviens, ça me revient... Excuse-moi, je suis comme ça.
C'est très intéressant aussi.
On devait être en mars 2020. John Ioannidis, professeur... Non?
Non, je ne connais pas.
Ah, OK. Si tu l'as en entrevue, je te paye un café. Là.
Il est où sur la Terre, lui?
Il est à Stanford,
okay.
À l'Université Stanford. C'est un professeur aussi qui, lui... Écoute, on devait être au mois de... février-mars 2020, il avait déjà donné des entrevues, avait déjà sorti des études scientifiques où il disait « Ah non, c'est pas grave, là, cette maladie-là, là, c'est pas grave. Vous avez plus de chances d'avoir un accident d'auto en allant travailler. »
Mais pourquoi personne ne l'a écouté, lui, si c'était si tôt dans... Parce que c'était pas ça qui devait se passer, finalement. C'était pas ça le théâtre.
John Ioannidis, là, aux dernières nouvelles, c'est l'épidémiologiste le plus cité au monde.
OK. Pas un 2 de pique, finalement.
Ben...
Plus moins.
Ouais, puis Stanford, là, il paraît que c'est réputé, je sais pas trop.
Il paraît, ouais. Mais tu sais, il y en a aussi de ces grandes universités-là qui ont adopté à fond les contradictions gouvernementales, puis tout ça. Fait que, tu
sais, ouais,
c'est pas gage de vérité absolue non plus, même si tu as étudié à une des grandes universités.
Ah non, évidemment que non. Mais lui, au printemps 2020, très très tôt, le disait déjà. Donc il y avait les médecins dont tu as parlé. Les 2 médecins californiens.
Erickson, ouais, puis l'autre, je me souviens plus, ouais.
Ouais, mais là, t'avais l'épidémiologiste le plus cité au monde qui disait ça. Puis c'est vrai que, curieusement, on n'entend plus parler de lui, John Ioannidis, je sais pas qu'est-ce qu'il...
C'est ça, qui est drôle. Il a peut-être pris sa retraite. Il y a vraiment beaucoup de gens aussi, depuis le début, qui ont parlé, tu viens de me nommer le médecin de Gaspésie tantôt, puis je pense à Daniel Erickson, qui est, ça fait plusieurs fois qu'on le nomme. Il y en a plein, là. Il y avait celui qui était l'ex-VP de Pfizer, là... Lui aussi, il était anglais, en tout cas.
Ah oui, oui.
Il était lanceur d'alerte. Lui, il disait, en tout cas, bref, il capotait avec le code QR puis le contrôle là, qu'il voulait prendre. Puis, tu sais, il sonnait l'alarme là-dessus. On n'entend plus du tout parler d'eux.
OK.
Mais qu'est-ce qui arrive de ces gens-là? Tu sais, c'est comme si... J'aimerais ça savoir c'est quoi leur histoire à eux après, maintenant. C'est clair qu'on les a fait taire, là, parce qu'il y avait quand même une volonté de parler. Comment cette volonté-là puis s'éteindre, il me semble, quand t'es dans la vérité, tu deviens pas du jour au lendemain juste bien avec ce qui se passe en ce moment. Là. On peut pas être bien quand on voit à quel point les données sont manipulées. Fait que je serais bien curieuse de faire une petite enquête pour voir qu'est-ce qui est arrivé avec ces gens-là.
Moi aussi,
il y en a qui parlent encore. Je pense à Idriss Aberkane, par exemple, très, très actif. Mais tu sais, vraiment, des professionnels de la santé qui ont continué de parler, il n'y en a pas tant. Le professeur Perron, Alexandre Henry, on cause, il y en a quelques-uns, mais il y en a plusieurs qui ont choisi de se taire. Puis ça, je trouve ça comme bizarre, comme celui que tu parles, dont je n'avais jamais entendu parler. Mais si non, mais tu sais, s'il y a une réputation si solide, il aurait dû continuer de parler. Il avait-tu peur de perdre sa job, lui?
je sais pas, il y a... Encore là, j'ai aucune information, là, on spécule. Mais en passant au procès du professeur Christian Linard, que j'ai représenté devant le conseil de discipline de l'Ordre des chimistes, ils ont fait venir un professeur de l'Université Laval en tant qu'expert OK? Mm. C'est André Darvaux, qui est le vice-recteur exécutif de l'Université Laval.
OK.
Puis là, on va pouvoir faire un lien. Là.
Oui, on s'en va. Je sais,
c'est
ça. OK, oui.
Ah, puis c'est vrai, faut que je réponde, faut aussi que je complète la réponse.
Ah, notes. Il y a trop de parenthèses. Mais oui, Christiane Hinard, oui.
Ouais, c'est ça. Donc, à son procès, pour venir dire là, que tout ce que le professeur Linard a dit est faux, puis que toute la littérature est unanime pour, hein, mm-hmm. à l'effet que le professeur Linard est complètement dans le champ, mm-hmm. ce qui est évident, ce qui est absolument faux, mm-hmm. ils font venir le vice-recteur exécutif de l'Université Laval. Et moi, en contre-interrogatoire, je lui ai dit, ben, connaissez-vous le professeur Ioannidis qui avait sorti des études sur la létalité ou la... je me souviens plus, il y a deux concepts en épidémiologie, de létalité et mortalité. Enfin, la létalité, disons, du virus, supposément, là, bon, SARS-CoV-2. Et là, il répond candidement, ben non, je ne connais pas ce professeur-là. Et d'ailleurs, je ne suis pas épidémiologiste, donc comment je ne le connais pas. Mais vous savez que c'est... vous ne le connaissez pas, mais je vous le dis, c'est l'épidémiologiste le plus cité au monde. Mais là, bon, moi, je n'ai pas fait venir un expert pour venir dire que... tu comprends? Mm-hmm. Et là, le conseil de discipline, ouais, mais là, il n'y a pas eu de preuve là, que c'est le plus cité au monde. Mais oui, mais... C'est... Parce qu'on ne s'en sort pas. On uh-huh. ne peut pas gagner contre eux.
Ouais.
Je voudrais juste compléter ma réponse ouais, sur... tu me demandais qu'est-ce qui arriverait avec le récit officiel.
Mm-hmm.
Donc ouais. là, je disais que le récit officiel, il tomberait en pièces.
Ouais.
Parce que c'est tellement évident, là. C'est tellement gros, c'est tellement évident. Bon. Et il y a tellement de monde qui profite de ce mm-hmm. récit-là. C'était ça que je voulais, ouais. que je voulais nommer, là.
Ouais.
Il y a plein de monde qui en profite.
Consciemment ou inconsciemment? Les deux?
Sûrement les deux.
Ouais, ouais.
Sûrement les deux. Et ces gens-là qui en profitent, qui continuent d'en profiter, puis qui sont peut-être même complices, ils veulent pas que la vérité se sache.
Mm-hmm.
Qu'est-ce qui va se passer le jour où la vérité va sortir au grand jour? Je veux pas trop l'imaginer.
Mais tu sais, ça m'amène à penser... Là, je sais que le monde capote quand on fait des parallèles avec la Deuxième Guerre mondiale, mais mettons qu'on fait un parallèle avec la Deuxième Guerre mondiale, il y en a plein qui étaient dans cette situation-là. Si la vérité émergeait, que leur vie s'effondrait... Mais elle a quand même émergé. Il y a quand même eu des procès. Il y a quand même eu Nuremberg. Penses-tu qu'il y avait plus de justice dans ces années-là que maintenant?
Oh boy! Je suis pas sûr que j'ai le goût d'aller là.
Ah, OK! OK, mais il n'y a pas de problème.
Je suis pas sûr que j'ai le goût d'aller là.
C'est trop quoi? C'est trop... Ah, ouais, je pense que je vois qu'est-ce que tu...
Ouais.
Parce que...
Je pense... Tu dis qu'on connaît la vérité sur ces choses. Je pense qu'on ne connaît pas toute la vérité sur ces choses.
Tu fais référence à MKUltra puis tout ce qui a suivi...
Non.
OK.
C'est un sujet intéressant en soi. <là. rire>
Oui, mais dans le sens que ce que je pensais que tu sous-entendais, c'est que, en fait, la vérité n'a pas tout émergé pendant Nuremberg, c'est ça que tu veux dire?
Exactement.
Oui.
Okay. Exactement, mais ça pourrait être le sujet de 12 émissions, là.
Mais en fait, ce que ça m'amène à prendre conscience en t'écoutant parler, disons, ce que j'entends de ton discours, c'est que ouais. la justice, ça ne date pas d'hier, qu'elle n'existe pas vraiment. C'est pas quelque chose qui vient d'arriver, là, en 2020 avec...
Mais non. Tu sais, là, moi, j'avais déjà mes doutes, mais là, je me suis ouvert les yeux, mais probablement que la justice a toujours été au service du pouvoir.
Mm. Aïe, ça puis fait là, mal, par exemple.
Ben oui, désolé pour la mauvaise nouvelle à ceux qui nous écoutent.
Ouais.
Mais probablement que la justice a toujours été au service, d'une certaine élite, d'un certain pouvoir, mais encore là, c'est la beauté de la chose, c'est que il y a quand même une apparence, si quelqu'un, un litige commercial avec un vendeur, un acheteur, il va peut-être obtenir justice, ça va y prendre 3 ans, puis ça va y coûter 100 000 piastres de frais d'avocat, mais peut-être qu'il va voir que justice va être rendue.
Oui, en fait, c'est ça, c'est que ça arrive encore. Là, je pense, je donne souvent l'exemple de Monsanto, il y a quand même cet agriculteur, je pense, c'est en France ou en tout cas en Europe, qui avait poursuivi Monsanto, puis il a gagné, là, tu sais, ça peut arriver des fois, mais on dirait que c'est... Ou je pense à Weinstein, dernièrement, qui avait été enfermé. On disait, bon, cool, au moins, MeToo a servi à quelque chose. Les femmes qui ont été violées ont justice. Mais je ne sais pas si tu as vu, mais la décision a été renversée la semaine dernière.
Non, je ne suis pas au courant de ça.
Là, ça fait comme un grand coup à ceux qui se disaient, au moins, les femmes ont eu justice. Là, tu te dis, OK, ben il va ravoir un procès parce que là, il y a comme un avocat qui a réussi à faire renverser la décision comme quoi que ça n'avait pas été fait dans les règles de l'art. Là. Il n'y a pas eu la virgule à la bonne place, du bon alinéa ou je sais pas. C'est tout le temps du gogossage de virgule, finalement. Parce qu'on sait qu'il a commis ces viols-là. Là. C'est même pas un secret pour personne. Mais là, il va ravoir tout un procès. Puis je pense à ces pauvres victimes qui vont être obligées de répéter encore leur, ce qu'ils ont vécu, le viol, agression sexuelle, harcèlement psychologique, tout ça. Puis c'est là que je me dis, on dirait, une fois de temps en temps, comme une bulle qui nous donne espoir. Mais on dirait que c'est juste pour nous donner de l'espoir, finalement, parce qu'après, comme on dirait que tout le système craque de partout.
Oui. Je vais faire une autre prédiction.
Ah oh. On va t'appeler Nostradamus. Nostradamus Fontaine.
Parce que là, il faut absolument que la population garde une certaine confiance envers ce système-là, qui s'est complètement discrédité, à mon avis, qui s'est complètement déshonoré. Mais il faut quand même que pour les gens, là, donc les gens qui profitent de ce coup-là, il faut que les gens conservent cette illusion-là de justice. Donc, ce qui va arriver, et c'est déjà commencé, c'est qu'il va y avoir, là, par exemple, des recours collectifs. J'ai vu qu'il y avait un recours collectif là, de maîtres mineurs par rapport au mauvais traitement dans les CHSLD.
Mm.
OK? Donc, je prédis que ce recours-là va avoir un succès.
Mm.
C'est-à-dire qu'il va certainement gagner. Et là, on va donner des miettes aux familles des gens qui ont été euthanasiés dans les CHSLD. Là.
Mm-hmm.
On se comprend.
Ouais.
Ça ne va pas les ressusciter. Ça va pas... les personnes qui étaient responsables... Un recours collectif, là, ça prend en moyenne 10 ans. Donc,
c'est ça, je suis dans un en ce moment. Ça m'hallucine compte Google. Ouais.
Sais-tu, c'était où mon stage? Je ne dirais pas le nom du bureau, mais j'ai commencé en recours collectif en demande, c'est-à-dire que le bureau pour lequel je travaillais représentait des consommateurs, des citoyens. Donc, je connais ça, les recours collectifs. En moyenne, ça prend 10 ans.
Ouais.
Donc, mettons là, que Maître Ménard gagne là, dans 10 ans. Là. Les personnes qui étaient en place vont être à la retraite, vont être... Puis de toute façon, quand tu travailles pour le gouvernement, tu as une sorte d'immunité. Donc là, à moins qu'on prouve ta mauvaise foi, ce qui est, qui est presque impossible, je veux dire, qui est très difficile,
il n'y aura rien.
C'est ça. Mais il va y avoir une apparence de justice, parce que là, il y a un recours qui a eu du succès, donc voilà, la justice
existe. Est-ce que, je suis curieuse de savoir comment ça a été reçu dans le domaine, ta décision, est-ce que tu as des collègues avocats, est-ce que tu as eu un retour de tes collègues?
À l'exception de mes amis, non.
Non.
Non, je pense qu'il n'y en aura pas non plus.
Non. C'est quand même particulier, ça aussi.
Puis là, quand je dis mes amis, là, je parle de 2-3 avocats là, qui étaient dans Réinfo Québec.
Ouais, c'est ça.
Je peux les compter sur les doigts d'une main, là.
Wow.
Par contre, faut être positif, là. Je pense que c'est ça, nos auditeurs vont dire, ouais, lui, là.
Ils vont se faire l'espoir d'après. Non, restez avec
nous. Non, il y a de l'espoir, il y a de l'espoir. Ouh. Parce que quand on est dans la vérité, ben oui, il y a de l'espoir parce qu'avant ça, on était dans le mensonge.
Mm.
Puis le mensonge, là, ça peut pas nous mener à quelque part de beau, là.
Non. D'accord.
Et là, on s'en va tranquillement vers la vérité, donc ça peut juste nous amener à quelque chose de meilleur, de plus beau.
Ouais.
Donc, sortez le champagne.
C'est vrai, c'est intéressant aussi, parce que dans le fond, c'est comme si pendant qu'on... On passe à travers une forêt de chardons pour comme se dépouiller de...
c'est une belle image.
de tous ces mensonges. Puis oui, je pense qu'au bout de ces chardons-là, il y a quelque chose de magnifique qui nous attend, mais pendant qu'on est dedans, ça graffine, tu sais.
C'est vrai que c'est étonnant, les chardons.
Ouais, c'est étonnant. Mais c'est comme ça que je le vois, puis je pense... En tout cas, moi aussi, j'ai l'espoir qu'il y a quelque chose... C'est pour ça que, quand je t'entends dire, mettons, je pense qu'il y a 0,00% de chance que ce narratif-là change, j'avoue que ça m'étonne, parce que je sais pas, peut-être que je suis dans un monde parallèle, mais je me dis... Je sais pas ce que ça va prendre, mais je vois pas d'autres avenues qu'un jour, la vérité, elle éclate par rapport à ça aussi. Ce sera peut-être pas à travers le système de justice.
Non.
Mais il va falloir... C'est tellement gros.
Ça donne le vertige.
Ouais, c'est ça.
Ça donne le vertige.
Comment ils peuvent camoufler ça? Tu sais, c'est même plus un éléphant dans la pièce, là. C'est un tyrannosaure, là. justement, ils vont se faire bouffer par leur propre bête à un moment donné. Je sais pas, j'ai l'impression... Moi, je me dis, ils creusent leur tombe. Puis, tu sais, la quantité de gens qui me suivent, qui m'ont écrit pendant la pandémie, moi, j'appelle ça la pandémie, je sais que ça choque des auditeurs, là, c'est pour le on se comprend, là. Mais qui m'écrivaient pour me dire, il y a eu un élément, un déclencheur qui, à un moment donné, moi, m'a ouvert les yeux. Tu sais, il y en a, ça a été, je donne toujours mon amie qui m'a dit, elle, c'était les hot dogs. Elle, ça a été trop, là. T'es comme, attends un peu, un hot dog, c'est quoi cette affaire-là? Il y en a d'autres qui m'ont dit, tu sais, moi, ta vidéo, exemple, sur le satanisme, m'a ouvert les yeux là-dessus. J'avais jamais réalisé à quel point il y en avait dans l'industrie du divertissement. Puis ça m'a amené à regarder d'autres choses, puis ça m'a amené à plein d'autres affaires. Tu sais, il y en a vraiment qui a eu un élément déclencheur qui les a amenés à se questionner, puis à creuser, puis à voir à quel point il y a du mensonge. Mais il y en a peut-être qui ont juste pas atteint leur seuil encore, tu sais. Mais qu'à un moment donné, il va avoir comme la goutte qui fait déborder leur vase à eux. C'est, en tout cas, moi, c'est mon espoir. Je le partage avec vous aujourd'hui. Il faut, parce que sinon, on sombre dans l'abîme. Là.
Mm-hmm.
Ça prend de l'espoir. Qu'est-ce qui t'attend? Qu'est-ce qui est devant toi maintenant que tu as démissionné? Tout le monde se demande, mais comment vas-tu gagner ta vie? On s'inquiète pour toi. Tu veux qu'on fasse une campagne de sociofinancement? Comment vas-tu gagner
ta vie? Moi, je demande rien.
Mais est-ce que tu as des plans? Est-ce que tu es emballé face au futur?
Il est écrit dans la Bible que, que les oiseaux dans le ciel, Dieu s'occupe d'eux. Ils n'ont pas besoin de cultiver des champs ou de. Oui, c'est ça. Mm-hmm. Les oiseaux dans le ciel, Dieu s'en occupe. Donc, donc j'imagine que Dieu, le Créateur ou qui que ce soit, va prendre soin de moi.
Soutenir dans ton saut dans le vide, finalement. C'est une question personnelle, mais c'est toi qui parles de Dieu. Est-ce que tu as une spiritualité là-dedans? Est-ce que ça t'aide à naviguer dans
la monde? Ah oui, vraiment, vraiment. Je m'intéresse au christianisme depuis quelques temps, mais je me suis intéressé auparavant.
Je t'annonce que tu n'es pas le premier. Il y en a vraiment beaucoup qui sont intéressés au christianisme dans les 4 dernières années.
Ah, mais c'est un. Puis à la spiritualité en général.
Oui.
Franchement, là, c'est un dénominateur commun.
Mm-hmm.
Parmi les...
Ils ont écrit des articles dans le Journal de Montréal, hein, je sais pas si tu avais vu, mais que les complotistes étaient aussi des gens spirituels. Là. En tout cas, ils ont fait des rapprochements okay. New Age. Alors, je pense que si tu étais dans le New Age ou dans la pseudo-spiritualité, tu étais aussi un complotiste, ça allait ensemble.
Mais je te surprendrai pas en disant que je lis pas le Journal de Montréal. Là.
Non, ben, je suis contente pour toi. Je le lis parce qu'il faut que je sache un peu les conneries qui sortent des fois, mais ça m'avait vraiment impressionné. Ouais,
c'est vraiment très commun. Puis moi, je m'intéresse depuis plusieurs années, notamment à la méditation d'inspiration bouddhique, donc au bouddhisme, le bouddhisme Theravada, le bouddhisme ancien.
Mm-hmm.
Puis la technique qui m'intéresse le plus, ça, c'est la méditation vipassana.
Oui, OK, t'es extrême un peu.
Tu connais ça?
Oui, oui, okay. C'est intense.
Donc, il y a un beau centre à Montebello, donc j'invite tout le monde.
OK, tu l'as fait à Montebello?
À plusieurs fois.
Ah ouais, OK.
À plusieurs fois, je suis allé, j'ai fait...
T'as pas d'enfant. C'est 10 jours, je pense, c'est ça? C'est long, là.
Oh, ouais, c'est 10 jours complets, là, puis si on inclut l'arrivée puis le départ, là, faut que tu bookes un 12 jours, là.
Wow.
Ouais. Ah oui, j'ai fait 8 ou 9 retraites.
Dans le silence total.
Oui, oui, j'étais bénévole pour plusieurs... bénévole pour 3 retraites, je crois.
OK, wow!
Oui, 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 je suis...
Donc, ça fait partie de ton hygiène de vie, la méditation?
Oui, oui, chaque jour.
Est-ce que tu considères que c'est spirituel, la méditation? Parce que pour des gens, c'est pas tant un lien avec la spiritualité.
Ouais, spiritualité, c'est un mot que, comment ça, j'aimais pas trop, mais bon, à un moment donné, il faut trouver des mots pour...
Comme dire pandémie, même si on sait qu'il n'y en a pas eu une.
C'est ça. c'est les enseignements du Bouddha, hein, donc le Bouddha, c'était une personne, hein, comme Jésus-Christ. Là,
Siddhartha, j'imagine.
Ouais, son nom, c'est Siddhartha Gautama. Donc, c'est un personnage historique, là, comme Jésus de Nazareth.
Ouais.
Qui a enseigné des choses, mais vraiment formidables, comme Jésus, d'ailleurs.
Ouais.
Moi, c'est des choses qui me fascinent. Mm-hmm. Oui, j'encourage tout le monde à s'intéresser à... Ben oui...
Philosophie de vie, en fait, qui serait plus de nature spirituelle, finalement.
Oui, puis ce que le Bouddha enseigne, par exemple, c'est que les bonnes actions ont des bonnes conséquences et que les mauvaises actions ont des mauvaises conséquences. C'est ce qu'on appelle aussi la loi du karma. Et moi, je crois à ça. Puis les chrétiens, eux, croient qu'un jour, ils seront jugés par Dieu, selon les actions qu'ils auront posées au cours de leur vie.
Ouais.
Donc, c'est le genre de choses qui m'intéressent.
C'est super intéressant. Tu vois, mais avant, je croyais vraiment beaucoup au karma, puis maintenant, j'y crois de moins en moins. Mais ça, c'est une autre discussion qu'on pourrait avoir, philosophique.
Oui, ben, c'est que le karma, ma lecture, c'est qu'il n'est pas toujours instantané. Là.
Non, mais ça, c'est sûr. Puis c'est pour ça que, justement, les bouddhistes croient à la réincarnation, puis tout ça. Donc, ça peut être même dans d'autres vies où je comprends. Mais on dirait que le karma... crois de plus en plus, mettons que je fais une petite parenthèse là-dessus, je crois de plus en plus, j'adhère beaucoup à la théorie, finalement, bon, ben, c'est pas une théorie, mais à la physique quantique, qu'on est des champs vibratoires, puis qu'on attire la vibration, finalement, qu'on vibre, qu'on émane. Puis c'est pour ça que je pense que le karma s'effondre un peu dans ce concept-là, parce que si tu vibres juste que t'es dans une énergie de vouloir profondément le succès financier, par exemple, je connais plein de gens qui ont beaucoup de succès dans leur carrière, qui sont des personnes vraiment exécrables. Vraiment. Et, ben, ces gens-là, c'est pas des personnes intègres, c'est pas des personnes avec les fameuses valeurs du bouddhisme ou même de la chrétienté, ou... Mais c'est des gens que ça marche pour eux, là. Fluide, ça y va au toast, là. Mais c'est pour ça que je me dis, ça ferait du sens par rapport au fait qu'ils vibrent juste vraiment beaucoup cette fameuse abondance financière, puis ça marche parce qu'ils l'attirent dans leur vie, puis ils n'ont pas eu besoin de devenir des personnes saintes dans leur vie non plus. Tu comprends-tu mon point? C'est comme si le karma, on dirait qu'il les frappe jamais, ces gens-là.
Ben moi je pense qu'ils essaient de jouer avec le karma, là. Ils essaient de le détourner.
Ouais.
Bon, puis je pense que c'est ce que les satanistes essaient de faire, là.
En tout cas, ils ont l'air à bien s'en sortir, à voir comment ça marche bien pour eux.
Ouais, comme... mais je pense qu'ils vont finir par devoir faire face à la musique, là, mais...
Ouais, en tout cas, on s'en reparle. Espérons que la musique vienne vite, quand même. J'ai hâte de voir si le fameux jugement va arriver, là.
Oui, puis peut-être pour compléter la réponse, tu me demandais, tu sais, les gens s'inquiètent pour toi, tout ça. Ouais. Tu sais, moi, j'avais pris quand même certaines mesures, hein, donc je me suis dit, OK, j'avais déjà vu que ce système-là, en fait, je voulais pas continuer dans ce système-là. J'avais pas l'intention de travailler comme avocat jusqu'à 70 ans, là, parce que les avocats, d'habitude, prennent leur retraite, ils travaillent là, jusqu'à...
50, à peu près, ouais.
Ah, ils travaillent...
jusqu'à la fin de leur vie. Tu travailles tard, tu veux dire, dans leur vie?
Ah, généralement, oui, oui. Oui, c'est des gens qui sont très, très...
Workaholic?
Oui, c'est ça, exactement. Okay. Okay. Exactement. Donc, moi, je savais déjà que c'est pas ça que je voulais.
OK, je comprends.
Donc, j'ai fait certains choix de vie, donc on pourrait dire une forme de simplicité volontaire, là.
Tu roules pas en Range Rover de l'année, mettons.
Non, j'ai une belle Toyota Corolla.
OK, c'est un choix. Non, mais c'est vrai que souvent, c'est comme un statement, parce qu'ils ont dit que si t'es un avocat, il faut que t'aies comme le char de luxe de l'année ou la Tesla. Ouais, ouais. Fait que toi, t'as choisi de baisser ton rythme de vie pour pouvoir travailler moins, c'est ça que je comprends?
Oui, travailler moins et épargner et pas être prêt à la gorge. Mm-hmm. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est ça qui m'a permis de prendre la parole. Donc, on se demandait pourquoi... Bon, je pensais pas que j'allais parler de ça, mais oui, pourquoi les autres n'ont pas pris la parole?
Mm-hmm.
Ben, c'est qu'ils n'ont pas la marge de manœuvre que j'ai.
Sont pas indépendants de fortune, ils peuvent pas se permettre financièrement le risque que ça représente.
Bon, puis je suis pas riche, là.
Non, mais je comprends, mais souvent, les gens qui ont pris la parole ont dit « j'ai pas le facteur financier qui me stresse ». C'était souvent un facteur qui revenait. Quand j'ai demandé à Christian Perron ou même Alexandra Henrion-Côte, j'ai posé la question à tous ces gens-là, puis c'était tout le temps « je peux me le permettre parce que j'ai pas le stress financier qui vient avec ». Pas forcément parce qu'ils sont indépendants de fortune, mais parce qu'ils sont dans une place dans leur carrière où ils ne sont plus aussi menacés.
Ouais. On n'est pas dans la même...
Non, je comprends très bien. Mais je comprends, c'était quand même un facteur pour toi. Tu y as pensé et tu t'es dit, je peux me le permettre.
Oui, puis là, je me suis félicité. Je me suis dit, wow, ouais. OK, j'ai un coussin, là.
Mm-hmm.
Je peux prendre du temps pour par exemple, hein, quand tout ça a éclaté, je peux prendre du temps pour faire ses recherches, hein? Mm-hmm. Comme ils disent, les complotistes font leurs recherches. Mm-hmm. Ben oui, ils font leurs recherches. Oui. Puis c'est pour ça qu'ils trouvent des éléments de vérité, puis c'est pour ça que vous autres, vous les trouvez pas.
Ouais.
Parce que vous gobez tout ce qu'on vous raconte. Mm-hmm. Donc c'est ça. Donc d'avoir eu ce coussin-là, c'est ça qui a fait que j'ai pu parler.
Ouais. T'avais le temps aussi.
J'avais le temps, puis j'avais, c'est ça, un certain coussin. Puis pour l'avenir, c'est ça, je suis confiant.
T'es confiant. Ben, je trouve ça extraordinaire, je te souhaite de belles choses. Ça m'a fait penser, puis tu viens de dire, on s'en va vers une conclusion, mais...
On n'a pas parlé de Patrick Poivreau.
Ouais. Il y a encore une couple d'affaires, là, puis écoute, je trouve ça super intéressant, ce que tu dis depuis tantôt, fait j'espère que t'es pas pressé, là, mais je vais pas te garder encore 2 heures, mais on vous fera pas du Joe Rogan avec 3h30 de podcast, mais... ouais, ben allons-y sur Patrick Poivreau. Attends, mais je m'en allais ailleurs, sauf que là, je l'ai perdu. Fait que Patrick Poivreau a perdu son emploi la semaine dernière. Ça a été, selon moi, l'onde de choc. Après toi, dans ceux qui... J'aime pas ça appeler la résistance, là, mais tu sais, dans ceux qui partagent l'information alternative, ça crée vraiment une grosse onde de choc.
Oui.
Parce qu'il a été supporté depuis le début, là. Patrick Poivreau, Les gens l'adorent, là. C'est un des rares au Québec qui s'est tenu debout, puis ça crée un précédent vraiment inquiétant, premièrement. Je trouve que l'Université Laval le met dehors. Surtout que ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir remis en question un traitement médical expérimental. Tu sais, en quelque part, tu devrais pas perdre ta job pour ça. Quand tu as l'expertise pour le faire, c'est quand même un microbiologiste. J'aimerais ça savoir, moi, qu'est-ce que tu penses de ça? Comment tu as reçu cette nouvelle-là?
Premièrement, le professeur Patrick Poivreau, je le connais, hein, c'est un collègue, c'est un ami. Mm-hmm. Donc, évidemment que ça m'a attristé d'apprendre cette nouvelle-là.
Ouais.
C'est pas... Encore là, je vous surprendrai pas en disant que c'est pas une surprise.
Oui. Il avait l'air étonné, par exemple, Patrick, dans son commentaire public qu'il a fait. Il pensait pas, je pense, que son employeur allait se rendre jusque-là.
Ah, peut-être. C'est ça. Ça faudrait lui
demander. Mais pour toi qui es tellement rendu cynique par rapport au système, toi, c'était pas une surprise.
Non. Puis pour moi, ce... puis en passant, je veux pas l'oublier, celle-là. C'est qui a signé sa lettre de congédiement au professeur Patrick Provost?
Je sais pas. Ah, le vice-président, roulement de tambour, je te gâche que...
C'est le vice-recteur exécutif, André Darvaux. Voilà.
Wow.
Et puis, au procès disciplinaire de Christian Linard, André Darvaux est allé dire qu'il n'avait pas été impliqué dans les mesures disciplinaires contre... Il y avait deux professeurs qui avaient fait l'objet de mesures disciplinaires. Il y avait Patrick Provost, puis un autre, là, Nicolas de Rome, dont on en a moins parlé.
Qui était de l'Université Laval aussi. Ben, c'est parce qu'il a pris un peu de recul après avoir fait sa lettre dans le journal, qui avait créé un tollé, là.
Lui, il avait fait une vidéo sur la vaccination des enfants. Très bonne vidéo.
Ouais.
Franchement, là, chapeau.
Ouais.
Et il a été aussi suspendu. Donc, il y avait deux professeurs de l'Université Laval qui avaient fait l'objet de suspension.
Pratiquement en même temps. Là. C'était début 2022.
Oui, c'était en même temps, là, si je me souviens bien. Et là, au procès de Christian Linard, encore là, sous serment, hein, les témoins sont toujours sous serment, le professeur André Darvaux vient dire... Encore une fois, vice-recteur exécutif, responsable des finances de l'Université Laval.
J'aime que tu mettes l'emphase là-dessus.
Non, mais ça s'invente pas. T'sais. Si on voulait inventer un scénario, on ferait pas mieux. Là. Et là, quand je le contre-interroge, non, je suis pas impliqué dans ces décisions-là. Parce que moi, je voulais démontrer...
Qu'il y avait un conflit d'intérêts.
C'est pas vraiment un conflit d'intérêts. Là, ça joue plus, disons, sur sa crédibilité. Là.
OK.
Donc, je voulais que ça sache qu'il était impliqué dans les représailles qui avaient été faites à l'encontre d'autres professeurs d'une autre université. Donc, je ne sais pas si tu comprends, on prend le...
Parce que Christian Linard vient de l'Université de Trois-Rivières.
C'est ça. Donc, on fait venir un professeur, en fait un très haut dirigeant, le numéro 2, pour venir témoigner en tant qu'expert contre un autre professeur d'une autre université. Et là, lui, sous serment, affirme que non, j'ai pas vraiment été impliqué dans ces décisions-là. Et là, je lui mets sous les yeux les lettres signées par lui. Je lui fais lire les lettres. Je lui fais « C'est bien vous qui avez signé? Oui. » Ah! Donc, est-ce que vous voulez changer votre réponse précédente?
Puis, il a changé, non?
Ben, oui, je suis impliqué, mais c'est moi qui signe, mais blablabla. Bla, bla.
C'est moi qui signe, mais c'est pas vraiment moi.
C'est ça, c'est moi qui signe, c'est écrit au « jeu ». C'était vraiment écrit au « jeu », là, je lui ai fait lire le « jeu ».
Extraordinaire, wow!
Ouais, fait que là, c'est beau parce que c'est lui qui vient de signer la lettre de démission, d'après ce que j'ai lu dans les articles, à moins de...
Ouais.
À vérifier, mais c'est lui
qui aurait signé le renvoi de Patrick Provost.
Exactement.
Donc, il est vraiment décisionnaire dans tout ça.
Ben oui.
Est-ce que tu penses qu'il va se faire réintégrer? Est-ce que tu penses qu'il y a de l'espoir pour le combat de Patrick Provost, toi?
Ben, est-ce qu'il y a de l'espoir pour le combat? Est-ce qu'ils vont le réintégrer? Je sais pas. Ça m'étonnerait.
Est-ce que tu penses qu'il y a d'autres profs qui vont se soulever? Parce que quand même, ça représente quelque chose de majeur. Même si tu es en désaccord avec ce que Patrick Provost fait, je veux dire, si tu es un prof à l'université puis que tu vois ça arriver à quelqu'un, ça peut être un peu stressant. Tu sais, peut-être que dire qu'une femme a un utérus, tu pourrais perdre ta job bientôt aussi. Tu sais, parce qu'on est dans l'idéologie, là.
Tu sais,
ce que je veux dire, c'est qu'il y a... Là, c'est le vaccin. Tu n'avais pas le droit de critiquer le
vaccin. Mais il n'y a pas que les femmes qui ont des utérus.
OK, c'est ça. D'où sors-tu, Hélo? Non, je ne savais pas. Il y a les intersexes, peut-être. Non, mais c'est ça, ce que je veux dire, c'est que...
On se comprend, parmi oui. l'extrême droite.
Oui, c'est ça. Je suis tellement pas là-dedans, là, mais ouais, c'est ça, on se comprend. Ce que je veux dire, c'est est-ce qu'il n'y a pas d'autres profs qui vont sentir qu'eux aussi peuvent être dans l'eau bouillante, dans leurs idéologies qui chamboulent un peu les narratifs, les pensées uniques du moment? Là.
Ben, moi, ce que je pense qu'ils vont se dire, les professeurs, j'espère que je me trompe, là. Donc ils devraient...
Oh mon Dieu, je te vois venir, mais vas-y!
Moi, je suis il y a personne le black-pilled, là.
Ouais, ouais, c'est toi, ça.
T'as déjà entendu l'expression?
Mais moi, je suis plus red-pilled, d'habitude. Toi, t'es black, c'est ça? T'es le cynique de la gang, c'est ça?
Non, mais là, j'ai parlé de bouddhisme, j'ai parlé de Jésus-Christ, ouais, ouais. Donc ouais,
ouais. OK, c'est correct, ça t'a sauvé.
Je suis quand même un peu white, ouais, ouais. C'est ça.
T'as ton noir et blanc, t'es monochrome.
C'est ça. Alors... ben c'est parce que là, ce qu'ils veulent faire, c'est faire un exemple avec tous les professeurs qui osent prendre la parole. Ouais. Fait que là, d'un côté, les professeurs vont se dire « Ouais, ça, c'est pas bon pour ma liberté universitaire. Donc, peut-être que je devrais l'appuyer.
Ouais. »
Mais d'un autre côté, ils se disent « Ouais, mais là, si on me fait la même affaire qu'à lui, c'est pas bon pour ma carrière. »
À fond, là, je veux dire, c'est ça qu'on fait. On fait des boucs émissaires, puis on s'en sert pour montrer l'exemple de ce qui vous... Tu sais, je reviens tout le temps à Guillaume Lemaitre-Vierge.
OK.
Mais c'est ça, pareil, Guillaume a été un petit peu... Regardez si vous avez envie de prendre parole ou aux communautés artistiques pour vous donner vos petites opinions qui vont contre le narratif, on vous tranche la tête.
Ouais. Ah, puis écoute, ça m'étonnerait pas que ce soit même arrangé par le gars des vues, ces affaires-là, mais...
Ouais, non, moi, avec Guillaume, moi, je pense pas, là, je connais Guillaume, fait que je suis convaincue que non, mais...
OK.
T'es pas le premier qui me dit ça. Moi, par rapport à mon opinion, mes convictions, je connais assez Guillaume, je le connais pas énormément, mais je connais assez pour voir à quel point il souffre de ça.
Ça, c'était très spéculatoire, là, de ma part.
Ouais, non, mais puis il y en a plein, parce que c'est ça, à un moment donné, on finit par avoir, je le comprends, à remettre beaucoup tout en question, mais tu sais... Je vois pas comment ça aurait pu servir Guillaume, là, tu sais, c'est la fin de sa carrière, fait que, je veux dire... Puis tu sais, on parle de Guillaume, mais tu sais, je pourrais nommer plein d'autres mondes, là. Le Guillaume, c'est parce que lui, il a continué de parler, mais il y a eu David Lahaye, plutôt dans les années COVID, qui prenait 2020-2021, il prenait beaucoup position.
Okay.
Puis maintenant, il se tient plus tranquille, puis tu sais, j'adore David, c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup, là, je le juge pas, mais je comprends qu'à un moment donné, on finit par se dire... Ouais, ben je vais arrêter de prendre autant la parole parce que, coudonc, c'est-tu moi où le téléphone sonne moins? C'est-tu moi où je suis rendue vue comme un complotiste sur les plateaux de tournage? Je me fais regarder croche? Tu sais, c'est ça aussi, c'est comme... Puis on est travailleur autonome quand on est artiste ou peu importe, là. Ouais. Il n'y a pas juste les artistes, mais je parle pour ma communauté que je comprends un peu.
Mais pour les avocats, c'est la même chose, hein?
Ouais.
C'est comme ça dans tous les domaines. Donc si les gens se demandent, oui, mais... S'il y avait un complot, on le saurait, ben c'est comme ça que ça marche, le complot, là.
Tout le monde est un peu comme...
Ben, c'est ça, on menace les gens, on fait des exemples avec eux, on sème la peur. C'est ça, on utilise des techniques de contrôle mental, on utilise des techniques d'hypnose, peut-être.
Peut-être.
C'est ça,
c'est ça ma théorie, oui.
Ton dada.
Ouais, ouais. mon gros dada.
Donc, c'est ça, c'est comme ça que ça marche, les complots, là.
Oui, oui, en tout cas. Et, de toute façon, ceux qui me suivent, des fois, j'essaie d'y aller mollo sur le complot, mais ceux qui me suivent, je pense, comprennent déjà un peu ma façon de réfléchir. Ah oui, je viens de me rappeler ce que je voulais te dire. Quand on s'est parlé au téléphone avant que j'ai fait une petite pré-entrevue, tu parlais les juges. Que tu disais que tu pourrais être juge dans le sens que ça prend 10 ans de fonction d'avocat pour devenir juge. Puis que la fonction. Je trouvais ça vraiment. Te rappelles-tu ce que tu me disais? Parce que je trouve ça. C'est par rapport à. Tu disais faire ses recherches. Comment qu'on se fait reprocher maintenant de faire nos propres recherches puis de se faire une tête sur un sujet qu'on n'a pas l'expertise. C'est comme si on nous a dit maintenant, tu te dois d'être un microbiologiste ou un virologue pour avoir une opinion sur un vaccin. Tu peux pas, si t'es juste un petit citoyen lambda, tu fermes ta boîte puis tu t'en vas chercher ta dose, t'as pas le droit de penser, tu sais. Puis,
c'est ça, les experts disent que...
C'est ça, ben, ces fameux experts-là, dont on ne connaît pas, on les a jamais rencontrés, mais ils nous dictent notre vie. Puis c'est vraiment intéressant ce que tu m'expliquais. Tu veux-tu m'expliquer un peu toute la psychologie derrière qu'est-ce qu'un juge fait? Comment ta démarche de recherche à toi, comme quoi toi aussi tu es capable d'avoir un esprit critique?
Je m'en souviens.
Ouais, vas-y.
Ben, au Canada, hein, pour être nommé juge, c'est pas la même chose en France. En France, ils ont une école de la magistrature. Au Canada... Donc, il faut avoir été avocat pendant 10 ans pour pouvoir être nommé juge. C'est dans la Constitution, là, si je me trompe pas.
Tous les juges ont été avocats avant?
Pendant au moins 10 ans.
OK.
Voilà. Donc ça, c'est comme ça au Canada. Les juges non plus ne sont pas élus, comme c'est le cas, là, je crois, aux États-Unis.
Oui, 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 c'est vrai.
Ou certains juges, peut-être pas tous, mais ici, les juges sont nommés par le gouvernement. Déjà là, je pense que les gens devraient s'arrêter deux secondes puis réfléchir à ça. Hein? Mm. Les juges sont nommés par le gouvernement.
Main dans la main avec le pouvoir.
Ben, ben évidemment que l'histoire officielle, c'est oui, mais bon, ils sont nommés à vie, ils peuvent travailler jusqu'à leur retraite, si ça les, si c'est ce qu'ils veulent faire, ils peuvent pas subir de pression. Donc, on nous présente ça comme étant un système qui, où il y a une certaine indépendance, mais ouais. Il reste que tu es nommé par le gouvernement, puis tu es nommé par le gouvernement pourquoi? Ben, je veux dire, pas parce que tu as critiqué le gouvernement pendant 10 ans, ouais. Hein, on se comprend?
Donc, mes chances d'être juge étaient de 0 sur
oui, c'est ça, comment? 0,00000. Donc, mes chances à moi d'être nommé juge pendant que j'étais avocat étaient nulles. Mm-hmm. Nulles de nullité, des zéros
ben,
jusqu'à l'infini.
On comprend déjà un peu ce que ça... C'est beaucoup, beaucoup nul. Ça prend des tsunamis quand il faut que tu sois... Il faut que tu fasses un jeu politique, finalement, pour te rendre...
Ben, c'est évident, là. Ouais. Je veux dire, bon...
Et donc, si t'es rendu juge 10 ans...
C'est ça. Donc, c'est-à-dire que moi, ayant été avocat pendant 10 ans, j'ai sur papier les qualifications nécessaires pour être juge. Mm-hmm. Pas les connexions politiques, on s'entend. Ouais, ouais. C'est-à-dire qu'un juge, là, qu'est-ce qu'il fait quand il y a un litige devant lui? Là, il y a deux parties là, qui ont un litige. Puis ce litige-là peut être scientifique, peut être technique. Donc, quand c'est un litige où il y a des enjeux techniques ou scientifiques, qu'est-ce que les parties font? Elles engagent des experts. Mm-hmm. Donc, la partie A engage son expert, la partie B engage son expert. Les experts produisent des rapports. Mm-hmm. Et là, il y a des plaidoiries, il y a la preuve qui est présentée. Et là, le juge, après avoir examiné les deux versions, les rapports des deux experts, après avoir entendu les témoignages, les interrogatoires, les contre-interrogatoires, il tranche. Mm-hmm. Donc, il dit « la version A est plus probable que la version B » ou « la version B est plus probable que la version A ». Donc, voilà, ma décision...
Il n'est pas allé à l'université devenir virologue, il n'a pas demandé à un immunologue de venir faire la job à sa place, il a été capable d'utiliser son cerveau puis d'analyser de façon pragmatique les preuves qui lui étaient offertes.
Exactement.
Et de pencher d'un bord.
Exactement, exactement, t'as tout compris.
Mais c'est ça, en fait, puis je sais que c'est les deux, on se comprend, mais je veux vraiment mettre l'emphase là-dessus parce que j'ai tellement entendu l'argument pendant les dernières
t'es pas
années.
Une experte.
Ouais, de quoi tu parles? T'es qui, toi, pour savoir que l'expert à TVA, là, il sait pas de quoi qu'il parle? T'sais, le monde vraiment enragé, là, j'en ai eu là, des enragés, là. Puis je me disais, wow, c'est quand même assez aliénant pour moi qu'on soit rendu là. T'sais, ouais. Qu'on nous dise. Qu'on n'est pas capable de se faire une tête. Il me semble qu'il n'y a pas un sujet. Je suis intelligente. Je suis capable de. Si on me l'explique, surtout si c'est expliqué par des experts, mm-hmm. Tu sais, qui amènent vraiment.
Je suis un expert du droit. Puis mm-hmm. Même si je ne suis pas avocat, j'ai encore. Ils ne m'ont pas encore enlevé mon bac en droit. Donc, je suis encore un juriste. Même, mm-hmm. Même si je ne suis pas avocat. Donc, je suis encore un expert en droit. Même si je n'ai plus le droit de vous donner des conseils juridiques, d'émettre des opinions juridiques, je suis encore un expert en droit.
C'est ça.
Et moi, j'ai fait le travail d'un juge, si on veut. Hein. Donc, j'ai regardé, je me répète peut-être un peu, mais c'est important.
Ouais.
J'ai regardé les deux versions, j'ai vu le récit officiel.
Mm-hmm. Et t'as tranché.
Et j'ai vu le discours des personnes intègres, des personnes qui n'ont pas de conflit d'intérêt, des personnes qui sont courageuses. Puis
C'est ça.
Puis j'ai prononcé ma décision.
Exact. Une grosse décision. ça me fait penser, puis on pourra terminer avec ça, que tu as parlé de la commission d'enquête citoyenne sur laquelle tu as été avocat. Tu as interrogé des gens à Québec.
Oui, j'étais un des procureurs pour les audiences qui ont eu lieu à Québec en mai, ça fait presque un an, en mai 2023.
Oui, c'était l'été dernier. Juste faire une parenthèse pour ceux que ça intéresse. Vous avez pas fait une entrevue avec Bernard Massy. Juste là-dessus, parce que Bernard était procureur là-dessus.
Il était commissaire.
Commissaire, excuse-moi.
Moi, j'étais procureur, lui était commissaire. Commissaire, c'est comme un juge. Procureur, c'est comme un avocat, c'est ça. C'est un avocat.
Puis Bernard Massy, donc, entrevue avec lui. On s'est concentré vraiment sur la commission d'enquête. C'était ça, la nature de l'entrevue qu'on a faite ensemble. Donc, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez. Puis là-dedans, il y a aussi tous les liens, le site web, les témoignages qui sont tous transcrits. Travail phénoménal qui a été fait. Puis, j'aimerais ça savoir ton expérience là-dessus parce que tu as entendu beaucoup de témoignages, puis j'aimerais ça que tu m'en parles un petit peu.
Oui, ça, je l'ai mis en note en bas de page dans ma lettre. J'espère que les gens vont aller voir les références. Donc, la première référence, c'est, je dis, je ne rentrerai pas dans les détails de la crise COVID ici, mm-hmm. parce que là, ça prendrait...
C'est plus des détails, en fait, non, c'est des tomes et des tombes.
Ben, c'est ça, là, j'écrirais un roman en plusieurs volumes, là, ce serait... Ouais.
pas un roman, en fait, ce serait plus un essai, parce que...
Je sais pas, une tragédie.
Ouais, ouais, c'est ça.
Donc, c'était pas ça mon intention, et là, je mets en référence, donc là, je dis, les personnes que ça intéresse, allez voir les témoignages, voyons, le rapport des commissaires,
mm-hmm.
et là, je donne les adresses Internet, tout est là, là.
Ouais.
La commission est allée dans 8 villes canadiennes, ont entendu des centaines, je me souviens plus, 305, en tout cas des centaines, ouais. des centaines de témoins, dont de mémoire 94 experts. Ça, là, c'est des heures et des heures. Le rapport fait 5000 pages, hein? Le ouais, rapport c'est, des commissaires.
Si Bernard Massieu était sur le rapport, c'était sûr que ça allait pas être concis. J'arrête pas de dire le fait que c'est not inside, là, mais...
Okay. Je connais aussi
Bernard. Des fois, il écrivait pour Libre Média quand j'ai commencé avec Libre Média, puis ses articles faisaient genre 12 pages. Mais Bernard, on peut pas publier ça, c'est un roman, là, à brèche. Fait que, mais oui, c'est ça, c'est parce qu'il y a tellement de substance, là, c'est hallucinant.
C'est incroyable. Puis moi, j'ai pas écouté tous les témoignages. Ouais. Mais quand j'étais à Québec, j'ai entendu plusieurs témoignages et moi-même, j'ai interrogé 8 ou 9 témoins, si ma mémoire est bonne.
Ouais.
Dont
professeur Perronne, comme tu disais tantôt.
Oui, oui, oui. Professeur Perronne, des victimes.
Des victimes aussi. Mais j'aimerais ça qu'on en parle de ces victimes-là, si t'es à l'aise. Ça a dû te toucher d'entendre ces témoignages-là.
Ah oui, ça m'a beaucoup touché. Ben oui, c'est les témoignages qui m'ont le plus touché.
Ouais. Ils n'ont pas de voix. Ils n'ont pas de voix, on les entend pas.
Non, le professeur Perronne, franchement, je suis vraiment extrêmement honoré d'avoir pu l'interroger. C'est une personne formidable, très vraiment. Disponible. Je devais parler au téléphone avant.
Hyper disponible.
C'est ça. Incroyable. J'appelle, il répond.
Ouais. C'est probablement sa plus grande qualité, ça m'hallucine. C'est quand même professeur Perronne. J'ai le texte, il me répond en 2 minutes. Là. Il est vraiment c'est ça. Incroyablement disponible. Ouais.
Donc,
mais on l'a entendu. T'sais,
on connaît, c'est ça.
Les victimes, je trouve qu'on... Même j'aimerais bien les recevoir aussi, mais j'aimerais ça savoir... ça a été quoi ton... Qu'est-ce qui t'a impacté? Qu'est-ce que t'as entendu qui t'a choqué?
Ah, ben, je sais pas. Prenons l'exemple d'une jeune femme là, qui, maintenant, ne peut plus travailler. Hein,
invalide, ça? Dans le sens... Elle ne pourra plus jamais travailler?
Je lui souhaite de pouvoir retourner travailler, mais quand je l'ai interrogée, elle était en arrêt de travail. Elle ne peut plus travailler.
Pourquoi?
Parce qu'à la suite des injections qu'elle a reçues, elle s'est mise à avoir des problèmes de peau très, très graves, là, une hypersensibilité, sensibilité à la pression, à la chaleur, au froid. Et là, l'histoire qui m'a vraiment... Puis là, je suppose que les parents dans l'audience vont être très touchés. Là, elle voulait pas faire... elle voulait pas se faire vacciner.
Oui, on ose. Mais mettons pour les besoins de la cause.
Pour les besoins de la cause, quand je dis vaccin, lisez injection toxique, ouais. Voire mortelle.
Disons injecté.
C'est ça. Donc, elle ne voulait pas le faire et elle l'a fait parce que c'est dit, bien là, avec les hôpitaux qui commencent à imposer des passeports puis toutes sortes de restrictions, puis on ne sait pas trop. Elle s'est dit, si jamais mon enfant tombe malade, puis je crois que son enfant avait déjà certains problèmes de santé, là, si je me souviens bien, je peux me tromper. Mais elle s'est dit, je vais aller me faire injecter pour pouvoir aller à l'hôpital au cas où mon enfant deviendrait malade. Et depuis qu'elle s'est fait injecter, comme immédiatement, là, ça a été... ah oui, mais là, vous n'avez pas de preuve que... Mais attends...
C'était vraiment quelques jours après ou quelques heures?
Je pense que c'était dans les moments qui ont suivi. Là.
C'était pas des semaines. On est
non,
c'est quoi ça, son nom? T'en rappelles-tu?
J'ai un blanc.
C'est pas grave, on pourra le mettre dans les commentaires. Je le rajouterai en commentaire de la vidéo. Il y a pas
ouais. Hein, je suis désolé, ça m'a...
Ben non, mais t'en as rencontré beaucoup.
Ça me vient pas, oui, puis oui, j'en ai rencontré plusieurs. Là. Donc là, c'est ça. Et elle est même plus capable de prendre son bébé dans ses bras.
C'est ça que tu me dis, c'est épouvantable.
Ouais.
Elle venait d'avoir un bébé. Il était jeune, là, c'était un jeune enfant. Là, c'était...
Oui, c'est ça.
Puis elle ne peut plus prendre son bébé.
Oui, c'est ça. Puis elle disait même son chum, elle dit...
Elle ne peut plus avoir de contact avec personne. Enfin, des contacts physiques, c'est insupportable, c'est ça?
C'est ce dont elle a témoigné. Puis encore une fois, sous serment. Donc, est-ce que vous promettez de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité? Oui, je l'affirme. Fait que...
C'est son histoire.
C'est son histoire.
Puis des histoires comme ça, tu penses qu'il y en a beaucoup?
Mais là, s'il y en a... C'est déjà là, venir témoigner dans une commission comme ça, c'est évidemment, c'est une minorité de personnes qui ont eu le contact, qui ont eu la volonté, qui ont eu le temps.
Mm-hmm.
Je veux dire, si on prend par exemple les chiffres du professeur Rancourt puis de son équipe, puis qu'il fait juste regarder ceux qui sont morts, donc ceux qui ont été blessés, si on peut dire ça comme ça,
ouais.
Ça doit être des chiffres... qui donne le vertige.
Ouais, ouais, ouais.
Mais tout le monde en connaît. Non, mais de demander à vos amis, tout
mais
le monde...
Moi, ce qui m'énerve un petit peu, c'est les gens n'osent jamais se dire que c'est à cause du vaccin. Tu sais, c'est... Ouais, mais ça pourrait être le COVID aussi, parce qu'ils savent pas, parce qu'elle avait le COVID avant, puis là, elle a eu... Mais après, puis là, ça a comme pris plusieurs mois avant que la santé se désagrège, ou en tout cas, se dégrade. Mm-hmm. Fait que là, ils savent jamais si... Il n'y a pas un médecin qui se mouille à dire oui, c'est à cause de l'injection. Ça aussi, c'est comme ça fait partie de l'omerta.
Ben, ils ne peuvent pas se mouiller parce que s'ils se mouillent, c'est un.
C'est la fin de leur carrière.
C'est un arrêt de mort.
Oui, c'est ça.
Ben, professionnellement.
Oui, oui. Oh, oui, c'est ça. C'est fou de même. C'est pour ça que ça prenait quand même, en tout cas, beaucoup de courage à ceux qui ont livré leur témoignage.
Mm-hmm.
Puis merci d'avoir travaillé là-dessus parce que ça a été. On a essayé le plus possible d'en parler dans les médias alternatifs du Québec, mais malgré tout, ça n'a pas fait autant de bruit, je pense, que vous l'auriez souhaité. Là. C'est ce que j'entendais, en tout cas, de Bernard Massy qui était.
Ah non, moi je pensais. C'était un moment historique, là, à mon humble avis.
Mm-hmm.
Puis, je suis vraiment content d'y avoir. Contribuer à mon humble
mesure,
c'est ça. Mais on pensait quand même que ça allait lever un peu plus que ça. Là.
Ouais.
Mais ça ne l'a pas levé pantoute. Hein.
Ça montre à quel point il y a comme un mouvement aussi d'étouffement de tous ces mouvements-là qui existent, qui demandent un travail monumental.
Mm-hmm.
Mais les pouvoirs en ce moment qui sont opérationnels étouffent très bien ces choses-là. C'est triste. Moi, je continue de me dire, ben, à un moment donné, il y aura un momentum. Il y en a plus aux États-Unis, il y en a plus en France. Tu sais, ça bouge. Ça... Mm. C'est comme quand même le livre d'Alexandra Henrion-Code a été le numéro un des ventes en 2023. C'est quand même encourageant, là. Tu sais, puis Alexandra me disait en entrevue, les gens qui lisent mon livre, c'est des gens qui ont reçu les injections. T'sais, c'est plus juste, t'as dit avant, les gens que je rencontrais qui venaient me serrer la main, c'était des gens qui avaient refusé l'injection. Mais là, j'ai réussi à aller chercher comme un autre batch, là, excusez l'angliciste, de gens qui lisent. C'est « Oh, OK, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pris? Je savais pas qu'est-ce que je faisais. » Puis là, ça ouvre une autre discussion qui n'existe pas encore ici au Québec, mais qui, je l'espère, va finir par... Je pense que c'est une question de temps. Si les États-Unis commencent à avoir la discussion, puis l'Europe... On ne pourra pas résister jusqu'à la fin. Là. Maintenant, il va bien falloir qu'on embarque nous autres aussi dans la discussion. Là. C'est mon espoir.
Je l'espère aussi.
Oui, on le souhaite fort. Écoute, on pourrait en parler vraiment longuement. Je ne m'attendais pas à ce qu'on touche autant de sujets, mais écoute, de la Bible aux oiseaux.
En passant par le satanisme.
Oui, c'est ça. Mais ça, c'est tout relié. Là.
Mais l'autre, tu ne peux pas parler de satanisme si tu n'es pas une sataniste toi-même.
C'est vrai?
Non, tu n'es pas une experte.
Ah, c'est vrai. Non, je vais me convertir. Non, certainement pas. Mais écoute, vraiment, je veux te remercier d'être venu. C'était vraiment intéressant. Félicitations pour ton intégrité parce que c'est une démarche que je comprends. Je sais que ça peut être vraiment difficile. Dans ma vie, j'ai fait beaucoup de choix par rapport à mon intégrité, puis je n'ai jamais regretté ces choix-là.
Mm-hmm.
C'est le plus important qu'on fait. Puis ça ouvre les portes sur d'autres choses. Un chemin tout à fait sinueux,
oui.
Mais la vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Bonne chance en tout.
Amen.
C'est ça. Bonne chance dans tout le reste de tes projets.
Merci de m'avoir invité, Elise.
Plaisir.
Bye.
Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, mettez un petit pouce par en haut, un commentaire ou partagez-la. C'est une excellente façon de m'aider à rejoindre un maximum de gens. Si ce n'est pas déjà fait, suivez-moi sur toutes mes plateformes, YouTube, Facebook, Instagram et X, là où la censure ne sévit pas. Et en terminant, si vous avez envie de me supporter directement et voir davantage de contenu comme celui que vous venez juste de regarder, j'accepte les dons mensuels ou uniques par Interac à l'adresse helloveutsavoir@gmail.com, mot de passe vérité sans accent, V-E-R-I-T-E. Merci!